With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais. Bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com. Aujourd'hui j'ai une team le zeng zeng, puisque oui. C'est ma podcast voilà. C'est ma backeuse favorite, la meilleure élève de ce podcast et une femme aussi déterre qu'un clip de Rof sous Guronzan. Marie Moula est avec nous.
Oh, j'adore ta description.
Bonjour.
C'est le meilleur moment d'aller.
Quel plaisir d'être là. En plus, tu m'as vraiment super bien backé sur
42.
Ouais, 142, tu vois. J'aurais fait ça avec une team genre Mimi, Kalindi pas Cédric, parce que Cédric il arrive à me backer un peu. Non, Mimi et Kalindi, genre je me serais pris le vent de l'année. Heureusement que vous êtes là.
C'est mais... quoi baquer, pardon.
C'est... Paola ne parle pas anglais, mais voilà. Vraiment pas du tout.
Ça, ce soit clair. Vraiment pas un mot, quoi.
Ça veut dire, quand tu fais les bacs, c'est comme dans le rap. Tu sais, ils répètent la fin de tes phrases.
Ah oui, ok. Ah, c'est ce qu'on vient de faire, un petit écho, là.
Oui, exactement.
Okay, c'est un peu R&B.
C'est un peu... C'est un peu R&B. Et d'ailleurs, on va parler de toi. Puisque sous ces airs de grande timide se cache une joy star qui provoque les gens en duel dans la rue, c'est Paola.
Wow. Ah non, t'as pas pu faire.
C'est le moment d'information que, si. Que je veux avoir.
Attends, ce midi, elle me fait des confidences, bien sûr que je vais les répéter dans le podcast.
Oh non, bon ok, d'accord, j'avoue, je confesse. Mais c'était avant, d'accord, les gens ne me tapaient pas, ne m'insultaient pas.
Bah si, t'aimerais bien.
Enfin, j'aimais bien avant, un mais jour. En fait, il se veut que quand j'étais plus jeune, en arrivant à Paris, parce que c'est l'effet Paris, quand j'étais très en colère, j'avais du mal à gérer mes émotions et il se peut que quelquefois j'ai fait exprès de rentrer dans des gens assez costauds quand même, hein. Je ne sais pas les vieilles dames et tout. Mais... c'est des gens assez grands et tout pour qu'ils m'embrouillent, pour que je les embrouille et pour que je puisse déverser ma colère sur eux. Et en fait, ça m'est arrivé avec un mec qui était pas très loin d'avoir mon âge, enfin, il devait avoir 10 ans de plus que moi, même pas. Et en fait, on s'est embrouillé et puis à la fin, on était en mode boss. Pardon.
C'est vrai que c'est bête.
J'étais en mode, je suis désolée, je passe une mauvaise journée. Et il m'avait fait, ouais, moi aussi. Et du coup, voilà. Et en fait, ne faites pas ça chez vous.
La meuf, elle provoque des gens en duel.
Elle les m'accomplit.
Ah ouais, mais du coup, je le fais plus. Je le fais plus, vraiment. Je le fais plus du tout. À part en soirée, quand il y a vraiment de l'air.
À part dans ça, non, ça et ça comme
quand, quand un mec est de droite, misogyne, raciste ou ce que tu veux, ça me vénère. Du coup, là, je le provoque pour qu'il me dise des trucs méchants et que je puisse lui taper dessus après.
Pardon. Okay. Putain, moi je pensais.
Tu pourrais taper direct aussi. Hein.
Non. Ouais. Non, parce que
non, contre, la violence serait tout pas fini.
Enfin, quand je dis taper, c'est taper verbalement. Hein.
Ah oui.
Je m'abîme pas les mains.
Tu ne touches pas ça.
Mais moi aussi, non, c'est ce que je voulais dire.
Mais hein. D'ailleurs, on va parler un peu de toi, d'Emmanuelle DeVos. Elle n'a que la voix, puisque cette dernière est née à Puteaux. Et alors, même si ça se situe sur la rive gauche de la Seine, bah c'est bien trop proche de la Défense qui, comme chacun sait, est le foyer épidémique de la droite. Non, si vous la cherchez, c'est sur ce petit îlot au large de la pointe du Raz que vous trouverez, que vous la trouverez, cette Aïda.
Oh !
Qu'est-ce que c'est la pointe du Raz ?
Non, pas du tout.
C'est le point le plus à gauche, enfin le plus à l'ouest de France.
En Bretagne. Très à gauche.
Très à gauche. C'est attends,
très, très, très à gauche. Et toi, t'es au-delà, t'es dans un petit îlot au large de la pointe du Raz, tu vois.
Toi, t'es dans le phare de la pointe du Raz.
Tu es loin, loin.
Merci pour cette description.
Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je précise parce que, bon, même Puteaux, tu vois, je me suis dit les noms parisiens, ils vont pas capter.
Ouais,
t'es Puteaux, tu vois, c'est près de la Défense.
Mais moi, je capte pas. Hein.
Bah, c'est au nord-ouest de Paris, donc c'est rive gauche, c'est à gauche. Et c'est proche de la Défense qui est le centre des affaires parisiens. Et la pointe du Raz, bah, c'est.
Ok,
c'est beaucoup
moi,
plus loin.
Autodescription. Du rat comme l'animal, tu vois. Du coup, j'étais là, ouais. Que les rats, c'est
ouais,
gauche.
Je sais pas si c'est vraiment cool.
Je suis pas vexée.
Mais non, la pointe du rat, R-A-Z.
R-A-Z-Z-Z.
Ah,
mais
j'ai
c'est
fait
en
des
Bretagne.
Balades là-bas. Eh oui, j'ai fait des balades là-bas.
Très c'est mignon.
J'adore.
C'est très sympa. Et du coup, tu sais, tu te dis. Enfin, moi, mes parents, je me souviens, ils me l'avaient dit en mode on va sur le point le plus à l'ouest de France, tu vois.
Ouais.
Et tu sais, t'y vas, tu te dis oui, bon, bah, d'accord, le point le plus à l'ouest, so what.
Et t'arrives là-bas et tu sens l'Amérique ouais. en pleine face.
C'est ça, c'est-à-dire plus loin, c'est l'Amérique.
Voilà, c'est ça.
Juste après, presque.
Juste après, c'est l'Amérique, tu vois.
C'est ouf.
Et
c'est
tu le sens comme ça, les effluves new-yorkaises de peace et de.
Et de dollars.
Et de dollars.
Oh yes. Ah, mais je vais aller à la pointe du rat cet été alors.
Est-ce que je peux me permettre?
Oui.
Oh,
tu m'as dit non, non.
On l'attendait tous. Je viens de sortir mon papier.
Oh my God.
Sans elle, dans ce podcast, nous ne serons rien. Elle est formidable et surtout, elle craint des gains. Le casting des Marseillais lui court après, mais elle a de plus grands projets. Conquérir celui de conquérir le cœur des meilleurs auditeurs, c'est notre très chère Alix.
Wow,
on s'est nul par rapport à ce que tu fais, mais j'avais envie de te faire un big up.
Non, mais voilà. Merci.
Ah non, mais j'adore. Ça va être ça à chaque podcast. On te fera tout.
Voilà, non, c'est la pression. On se. Voilà.
C'est grave. On devrait participer au cours.
Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mmh. Ça me fait plaisir. J'en ai eu deux depuis. C'était
oui,
toi et Cédric. Cédric.
Voilà, les plus gentils.
Les plus gentils. Voilà, les meilleurs élèves de ce podcast.
Alors qu'on se bouge. Improvise.
Je suis en train d'écrire un haïku dans ma tête. Hein,
la fleur au vent.
D'ailleurs, Aïda, est-ce que tu aurais des commentaires?
Eh bien non, je n'ai pas de commentaires. Je n'en ai pas reçu. Je sais pas pourquoi.
Donc envoyez des commentaires à Aïda.
Ne vous
en faites pas, elle est de gauche.
Même si j'ai pas eu de commentaires, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus s'abonner à mon compte Instagram après mes supplications du dernier épisode.
Ça marche comme ça, mais ça marche comme ça au début. Moi aussi, je suppliais.
On va tous faire ça. Hein.
Bah ouais, grave. Écoutez, merci d'être venu sur mon Instagram. Maintenant, je réfléchis à du contenu de qualité.
On en attend. Divertir. Avec
et des codes promo.
Ouais, grave.
Si je me pose la question aussi de. Mais attends, quand t'as 3000 abonnés, tu dois forcément faire du contenu cool.
Bah
tu
ouais, t'es obligé de faire des trucs.
Bah ouais, regarde-moi.
Alix, arrête, il est cool ton contenu. Franchement, il est mieux agencé que les gens qui ont 400 abonnés like nous.
Bah, je sais pas. Je mets beaucoup de photos de moi et je me sauce toute seule. Enfin bon, je sais pas si c'est du contenu de qualité du coup.
Moi, j'adore cette ligne éditoriale. Je vais la copier
ouais, vraiment.
Un petit peu. Ça et des photos de mon chat.
L'égocentrisme, ça marche toujours.
Ouais, un peu de self-love. J'arrive pas à le dire.
Self-love. Est-ce que vous avez des commentaires, Marie, Paola?
Eh bien moi je suis confuse puisque la semaine dernière quand on a fait le LMK en live Twitch, j'ai dit que je n'avais pas de commentaires alors qu'en fait il s'est passé plein de choses.
My God.
Incroyables, enfin plein de choses. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai dit que LinkedIn était un de mes réseaux préférés.
Oui.
Est-ce que les gens te laissent des commentaires
sur
LinkedIn?
Est-ce que c'est quelque chose de
droite ça? Je me suis tellement retenue, tu sais, j'essaye d'arrêter le running gag, c'est de droite, tu vois. Genre, je suis quelqu'un d'autre que quelqu'un qui juge la politique.
C'est vraiment la meilleure place pour faire des running gags. Et en fait, j'ai eu pas mal d'invitations de gens sur LinkedIn qui étaient quand même pas mal d'étudiants. Ok, et un truc trop drôle, vraiment un fun fact. Donc, c'est un commentaire slash une interpellation. Voilà. En fait,
un commentaire slash une interpellation.
Une interpellation.
Une intercation plutôt. Bon, bref, vous allez voir.
Pire. Une interaction
plutôt. Voilà, au choix. En fait, il y a quelqu'un qui m'a ajouté sur LinkedIn. Elle s'appelle Fanny. Et en fait, elle travaille dans une agence avec qui parfois j'essaie de rentrer en contact pour avoir des campagnes. En fait, donc c'est quelqu'un qui. Vraiment, et pile poil dans mon milieu professionnel. Donc, moi, je lui envoie un message, et c'est marrant parce que quelques jours avant, j'avais envoyé un message à potentiellement l'une ou l'un de ses collègues pour monter une OP ensemble. Donc, je vois qu'elle m'ajoute, je l'accepte, et je lui envoie un petit message pour dire « Coucou, oui, effectivement, j'ai envoyé une offre pour telle personne, machin, est-ce que tu me contactes par rapport à ça ?» Et elle me dit « Non, je t'ai entendu dans LMK !» Je lui dis « Ah, ok !»
C'est du bizarre coup, parce que j'avais pour le partenariat du coup. Ouais,
j'avais un ton semi-professionnel, semi-lol. Je dis ah c'est super, bisous.
Voilà, c'est trop chou.
PTDR, les gens j'adore. Qui m'ajoutent sur LinkedIn. après mon kiff.
Bisous Fanny.
Bisous Fanny.
Oui, j'ai un commentaire.
Paola.
Alors moi c'est mon deuxième MP depuis que je fais des LMK.
Oh my God.
C'est un peu la fête. Moi dès que je reçois un MP de gens de LMK, je suis trop contente.
Pompé-lop.
Et là c'est parce que je suis comme Aïda, abonnez-vous à moi.
Paola tiret du bas SRF.
Ouais, comme SFR, mais le R est renversé. Voilà.
Parce qu'elle s'appelle Paola Serafin.
Serafin. Le nom de princesse.
D'ouf.
Mais tout le monde me dit ça. Enfin, Alix, tu m'as dit ça, et puis tout le monde est d'accord, alors qu'on m'a jamais dit ça avant dans ma vie, quoi.
Mais si, t'as un nom d'actrice ou de scénariste qui vit en Italie, tu vois.
Écoute, Xavier Dolan, si t'écoutes ça,
n'hésite pas.
Enfin, il est pas en Italie, ça marche pas. Mais vous avez compris. Du coup, c'est Clo-HOS qui m'a écrit par rapport à l'épisode 140 de LMK. Bah, Aïta, t'étais là. Il y avait Mimi,
et Anthony.
Aïta et Anthony, c'est ça. Ouais. Et Anthony, ah, oui. avait parlé de Vinted. Et j'avais dit que moi, je trouvais que du Lulu Castagnette.
C'était trop drôle.
Très, très drôle. Fun fact, vraiment. Et du coup, j'étais en mode, enfin, je suis en mode, voilà, si vous avez des solutions pour trouver des trucs cool sur Vinted, dites-moi. Et elle me dit, salut Paola, je viens de terminer le LMK 140. Top, cet épisode, comme toujours, est bien rempli de formidables digressions, évidemment. Du coup, je t'envoie juste après le lien vers une vidéo de Colline, donc comme Colline, hein, C-O-L-I-N-E, qui donne des petits conseils pour s'y retrouver et trouver surtout des trucs sympas sur Vinted. Ça évitera peut-être de tomber que sur des t-shirts Lulu Castagnette.
Ah.
Le lien sera dans les notes de ce podcast.
Bien
parce
sûr.
Que, parce que bah, c'est trop bien. Je suis allée voir et effectivement, elle donne des petits conseils et tout. Et du coup, c'est top.
Trop bien.
Trop bien.
Trop Lulu Castagnette, putain, c'était mes lunettes quand j'étais en CM2. J'avais
oh là
des
là.
Lunettes. Lulu Castagnette.
Et qu'est-ce que t'as, toi?
Non, moi j'avais le parfum
le
et
jugement.
Le sac.
Ah ouais.
Ah bah voilà. Tu vois, parfum, je dis oh là là, c'est plus par admiration. Il sentait pas bon. Mais la bouteille était très stylée.
Ouais, et puis c'est des trucs de bébé en vrai. Tu vois, c'est du parfum.
Mais
pour
oui,
enfant,
c'est
quoi.
Trop chou. C'est pas du parfum. Je trouve que en plus le parfum Lulu Castagnette, c'est pas trop sucré, tu vois. Mm. C'est du parfum pour enfant un peu fleuri.
On est en train de parler de la fragrance Lulu Castagnette là.
Tu t'en rappelles?
C'est de ouf,
c'est clair.
D'ailleurs, ça aurait pu être mon kiff, mais ça le sera pas. Ce sera juste une digression. En fait, j'ai toujours eu le même parfum depuis que j'ai 13 ans.
Wow.
Non. C'est Chance de Chanel. Et
depuis 13 ans, quoi. Depuis
13 ans,
c'est trop. Ouais, parce que je pense qu'à 13 ans, j'ai dû commander un parfum, tu vois, et ma mère, elle s'est dit, bah, le temps est venu de trouver un parfum correct, tu vois, et cool. Je sais pas si j'avais exactement 13 ans, mais je me souviens que j'étais ado, quoi. Et du coup, elle m'a acheté ça. Et j'étais là, bah super, j'adore. Et j'ai ça tous les ans.
Oh,
sauf
non.
que là, je reçois plein de parfums différents. Et en fait, je kiffe changer
ouais,
de parfum
bah,
finalement.
Ouais.
Alors que je m'étais toujours dit, non mais moi,
c'est
je suis
parfum,
la meuf.
Ouais,
moi, je suis vraiment Chance Chanel. Sinon, je me vois pas
c'est
avec autre chose. Hein, c'est vraiment moi. Et non.
En plus, il est assez fort quand même.
Oui, c'est ce que je me dis.
Ma mère, elle l'a, tu vois, quand
ouais, ouais.
c'est passé.
Ouh. Ah ouais, tu trouves?
Mais j'adore, hein. Enfin, j'adore.
Et moi,
mais
j'ai pas.
Puis je trouve pour une peut-être une jeune femme.
Mais j'avais l'eau de toilette, tu vois, genre j'avais pas le parfum.
Oui, c'est pas le truc. Qui
enfin voilà quoi.
D'accord.
Donc là, en ce moment, je mets Girl de Rochas, qui
okay.
m'ont envoyé un joli portage.
Sympathique.
Comme si j'étais une influenceuse vraiment. Wow, avec 700K, mais vraiment, j'avais un portage de ouf.
Mais c'est trop bien.
Là.
On adore.
Pourquoi?
Mais on voyait des produits gratuits.
Ils sont trop trop cool.
Toujours.
Et le parfum sent super bien. Il sent super bien.
Et elle est vraiment bien.
Et elle est vraiment bien ce parfum. Et sinon, j'ai une autre, j'ai un autre parfum. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. C'est
et
top.
Bah d'accord.
Et j'ai un commentaire aussi de Charlotte, écrit avec des typos un peu différentes. Hello Alix Martino, je tenais à t'informer que nous avons très vraisemblablement le même petit frère. Et moi j'étais là, hein? Est-ce que quelqu'un est en train de me dire que mes parents
ont fait de la merde?
Mes parents ont fait de la merde, la fille du facteur. Et oui, le mien aussi n'était jamais au courant de ce qui se passait dans le cercle familial, bien qu'il ait toujours été présent lors des dîners où nous discutions du dit sujet en long, en large et en travers. Parce que je disais que mon frère ne savait jamais où on allait,
ah oui,
jusqu'à ce qu'on monte dans la voiture et il disait « Au fait, on va où ?» Voilà.
C'est formidable.
Sûrement trop occupé à trier ses coquillettes. D'ailleurs, Alix, nous avons comme projet de nous rendre en Floride dans un avenir plus ou moins proche. Alors toi qui connais Miami comme ta poche, si tu as des tips ou des infos à absolument savoir avant de se rendre dans cette idyllique contrée, nous sommes bien évidemment preneurs. Si jamais tu lis mon commentaire, j'en profite pour y placer une dédicace. Big up à toi, Clément. Si tu passes par là, t'es le meilleur des petits frères de l'univers. Je t'aime, bébé chou. Et bisous à vous tous, les LM kiffeurs, vous êtes les meilleurs. Je vous aime d'amour depuis le jour 1. Merci pour tout. Love.
Oh,
trop chou. Alors,
bisous.
Ça va être très sérieux ce que je vais dire, mais il faut que je fasse une petite digression sur Miami.
Là où tu t'es fait voler ton portable.
Je me suis déjà fait voler mon portable, donc n'allez pas dans cette rue à Fort Lauderdale avec tous les bars, parce que les gens vous paieront des coups, mais vous voleront votre portable aussi.
Ah ouais, c'est ceux qui t'ont payé des coups qui t'ont
volé ton portable.
Bah je sais pas, mais j'étais très bourrée du coup. Du coup j'ai peut-être donné mon portable. Je sais,
la vie d'alcool est dangereuse pour la santé.
Bien sûr, merci Paola.
Sinon tu vas sans portable du coup. Tu te fais juste payer des coups et rien voler.
Ouais,
après tu rentres pas chez
oui,
toi.
Oui voilà, après tu peux pas rentrer chez toi, oui littéralement, puisque ouais, c'est compliqué. Mais voilà, non sinon j'avais une reco, c'était le guide que j'avais employé. Il s'appelait Alexandre.
Voilà.
Mais en fait, on a parlé dans le même cas, non ?
Mais oui, c'est Miami en français. Miami en français, je crois. Ouais. Et il y a Los Angeles en français. Enfin, voilà, c'est une boîte de guides touristiques qui sont très, très cool. Et je trouve ça toujours cool de faire une nouvelle ville avec un guide parce que tu découvres des trucs que tu n'aurais pas vu forcément. Mmh. Et là, tu vois, il nous a emmené faire des balades à vélo, des trucs comme ça, qu'on n'aurait pas forcément fait s'il n'avait pas été là, quoi. Donc voilà, super. Big up à Charlotte et merci pour ce commentaire. J'en profite pour faire un autre big up Toboggan, voilà, qui m'a envoyé un petit message et j'ai trouvé leur démo YouTube très sympa. Alors ils me disent « Hello Alix, nous c'est Toboggan, on fait de la pop synthétique pour les gens romantiques chez le label Pont Futur et on vient de sortir un nouveau single. Ayant suivi plusieurs de tes kiffs musicaux dans Laisse-moi kiffer, on s'est dit que ça te plairait peut-être, n'hésite pas à glisser un œil au clip. Bonne écoute et bisous à toute l'équipe, vous êtes les bestes. » Donc vraiment j'ai aimé leur clip, je l'ai trouvé un peu arty, tu vois, un peu dans la même veine que Vidéo Club, tu sais, enfin bon, voilà.
Nostalgie, du coup, rétro.
Voilà, je l'ai lancé. Ça s'appelle Dans le noir et ils l'ont mis en ligne il y a un jour, il y a déjà 1000 vues. Donc n'hésitez pas à leur faire des vues, on mettra leur lien dans les notes du podcast.
Oui.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de l'anecbof de star.
Wow, allez.
Alors, j'ai une super anecbof de star aujourd'hui que je trouve très mimi. Vous êtes en suspense.
Je m'en suspense total.
Pendu à tes lèvres, Alix.
C'est Lipo Vitka qui dit « Salut Alix, l'épisode d'aujourd'hui m'a fait penser à une anecdote de star très bof, mais choupie. » Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas du tout l'épisode d'aujourd'hui. Du coup, c'est l'épisode d'il y a très longtemps, mais je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est quand j'ai lu la lettre de Lisa Dandéron qui écrivait sur des papiers d'idole.
Ah oui, trop mime.
Et elle dit « Il y a quelques années, je fréquentais un café où j'allais tous les jours pratiquement après le bureau. Il y avait toujours un vieux monsieur au comptoir et on se disait bonjour et on discutait un peu. Le jour de mes 30 ans, j'y suis allée pour fêter ça avec mes collègues et le monsieur m'a offert un grand cadre avec un dessin de Diddle. Et c'était le dessinateur de la célèbre souris.
C'est pas vrai.
Oui, j'ai trouvé le geste super gentil. 8 ans après, j'ai toujours le dessin.
Oh, c'est cool, génial.
Ouais, c'est trop chou en vrai qu'il y a un... Tu sais, ce vieux monsieur qui est là au comptoir et tout, qui dessine. Et en fait, c'est le mec qui fait Diddle.
Ah ouais.
Parce qu'il y a des stars qu'on connaît pas quand même.
Clairement. Tu vois.
Ça donne trop envie de faire un livre dessus, sur l'histoire. Une fille qui rencontre un vieux monsieur, ils discutent et à la fin, on découvre que... Oh, c'est beau, j'adore.
Ouais, c'est beau.
C'est beau. On pourrait faire un livre des anecdotes de stars.
Clairement.
Oh. Ce serait trop bien.
T'avais pas une anecdote de stars ?
Si, c'est une anecdote de star cool, mais une anecdote bof, bof, bof.
Ok.
Ok.
Voilà. Vous voulez que je la raconte ?
Bah ouais.
Bah non, du coup, reste
c'est
dans la
segment. Ouais. J'en ai plein en plus. Non, en fait, celle-là, c'est quand j'avais 17 ans, j'étais avec une copine qui s'appelle Pauline et du coup, je lui fais des gros bisous. On était au lycée. Et en fait, il y avait l'avant-première de Five.
Ah oui!
À Rennes. Du coup, nous, à Rennes, on n'a pas l'habitude de voir des stars passer, tu vois, c'est Rennes, genre. Et enfin, c'est pas Paris. Et du coup, il y avait. C'était pas au CGR, comment on dit, le Gaumont. Ah, et oui, du coup, on avait réservé nos places. On est arrivé, vraiment, je crois que c'était en terminale, donc moi, j'avais fait dérogation pour l'internat et tout. On est arrivé vraiment 2 heures à l'avance. Et en fait, on a réussi à s'asseoir au tout premier rang. Donc, dans Five, il y a Pierre Ninet. Comment il s'appelle, François Civil, et puis les autres, je sais plus, désolée, mais j'avais retenu ces deux noms-là.
C'est Igor Gottesman qui a réalisé, non ?
Ouais, c'est ça. Et c'est un film, bon, en soi, le film, voilà, chacun ses goûts, mais moi, je venais à l'époque pour Pierre Ninet, parce que j'étais un peu fan de lui à l'époque, et du coup, on s'assoit vraiment sur les deux sièges du milieu, devant la salle, enfin, vraiment, on était à 2 mètres, enfin, 2 mètres, non, 10 mètres de quoi. Et en fait, on avait apporté des petits gâteaux, avec une petite boîte à gâteaux avec un servez-vous qu'on avait écrit et c'était des petits biscuits, vous savez là, les petits beurres avec du chocolat et du lait.
Ah oui.
Voilà, c'était mes gâteaux préférés. Okay. Du coup on avait amené ça et ouais voilà. Et moi j'avais mon appareil photo argentique et en fait un appareil photo argentique, bah il y a le flash. Mm-hmm. Et en fait pendant qu'il parlait, moi je me rendais pas compte qu'il y avait le flash parce que j'avais l'œil dedans. Et pour au secours.
T'as et pendant qu'il parlait,
j'ai vraiment, je prenais 4-5 photos, je clic-clic, et ça faisait du bruit en plus, c'est un argentique. Et à un moment, il y a Pierre Ninet qui se retourne et qui fait bon, t'as fini à toi.
Mais non.
Mais en rigolant, Il était pas agressif, mais il fait bon, ton appareil photo là, ça va.
Tu as pris ta photo là.
Tout le
tout le gaumont rempli. Et alors moi en terminale, enfin déjà ma pote, elle était plus qu'introvertie, mais alors moi, enfin c'était pas possible, on a rougi tous les deux. Et du coup, j'ai eu un fou rire hyper nerveux, j'ai baissé mon appareil photo, il fait mais t'inquiète hein, reprends-le, vas-y, prends tes photos là, on pose, regarde. Et du coup, je me suis sentie pas très bien. Et du coup, j'ai fait OK, d'accord, je prends des photos. Et du coup, j'ai pris des photos et j'ai enlevé le flash. Et après, il a vu les gâteaux, il a fait oh, c'est pour nous et tout. Et du coup, l'humiliation.
De ouf, de ouf.
La honte a continué pendant au moins, je sais pas, ça a peut-être duré 10 bonnes minutes quand même. Hein. Oh, c'est des gâteaux, vas-y les gars, il y a des gâteaux, la régie, il y a des gâteaux. T'es... Et du coup, il a pris les gâteaux et déjà, nous, on en voulait pour nous, mais du coup, ils ont tout pris. Et,
t'as volé tes gâteaux, wesh.
En même temps, t'as marqué servez-vous.
Ouais, de ouf. C'est, et c'est de l'altruisme, mais pas trop, tu vois.
C'est de l'altruisme poli.
Oui, c'est ça. Mais non, on était contentes et tout. Et du coup, ils distribuaient les gâteaux. Et puis après ils posent des gâteaux. Et puis voilà, à la fin, j'ai pu lui parler un peu et tout. C'était drôle. Et en fait, l'anecdote bof, c'est surtout que mes photos, comme il n'y avait plus le flash, c'était raté. Et du coup, j'ai vraiment aucune photo potable, à part d'un mec que je connaissais pas dedans le film. Voilà. C'est une anecdote bof bof, hein, mais c'est des stars, donc c'est cool.
Ça marche.
C'est du génie. Merci beaucoup, Paola, pour cette anecdote de star. Si vous aussi, vous avez des anecdotes de star ou des commentaires, mettez-les sur
Apple Podcasts
avec
5 étoiles.
Ouais, merci.
Eh bien, c'est l'heure aussi de la dédicace.
Voilà. Alors, ce que je vous propose à la place de la dédicace aujourd'hui, c'est un message boubou, un message réré, un message bourré.
Ouais. Alors, Lorraine, t'étais boubou dimanche dernier ?
Hello la team LMK et LM Crado. Petit message boubou en ce dimanche après-midi. Oui, il est que 5h de l'après-midi, mais je suis à Londres où les terrasses ont enfin ouvert. Donc je viens de boire un certain nombre de cocktails dans un bar très cool. Avec une petite anecdote en passant, j'étais avec le mec dont j'étais follement amoureuse l'an dernier, mais qui m'a foutu un gros vent. Et il se trouve que sa meuf a pété un câble de savoir qu'il était avec moi cet après-midi. C'est pas drôle, mais un petit peu quand même. Bref, je voulais vous dire que je vous kiffe beaucoup et vous avez même pas idée à quel point vous influencez ma vie. Vous pouvez pas savoir le nombre de choses que j'ai regardées sur Netflix et autres, le nombre de films, de séries,
mis à la soule,
le livre que j'ai lu à cause de vous ou grâce à vous.
À cause de vous.
Vraiment, je vous adore, j'adore vous écouter, vous me faites rire. Et.
Ouais, ok.
Elle était vraiment bourrée parce que son vocal n'a pas marché jusqu'au bout.
C'est la quintessence du message.
Ah oui, vraiment.
La voix traînante, mi-agacée, mi-FDR.
À cause de vous, j'ai regardé beaucoup de films.
J'adore quand elle rigole, elle fait c'est pas drôle.
C'est pas drôle.
Mais une voix très douce,
vraiment du génie.
Ouais, gros qui très dans sa voix quand même.
Merci beaucoup pour vos messages boubou, vos messages rirés. Vos messages bourrés.
C'est comment baquer.
C'est ça.
Et si vous en avez, envoyez-les nous sur laisse-moi kiffer @mademoiselle.com avec vos jingles et vos dédicaces, puisqu'apparemment il y a 47 rubriques dans cette intro. Sûr. Et en parlant de jingle, c'est l'heure d'écouter le jingle des kiffs.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
C'est la pista. Tes podcasts, oh laisse-moi kiffer par mademoiselle. Y'a les mini, puis les gros kiffs. Oh laisse-moi kiffer.
Oh, Valentin,
t'étais surpassée.
Toi,
t'étais pas sereine.
Je savais plus ce qu'il fallait dire.
Il y a trois choses à dire. 5 étoiles, Apple Podcast, Valentin.
Déjà, j'ai raté 5 étoiles tout à l'heure.
Et j'ai fait genre un bout, les messages rirés, les messages bourrés aussi maintenant.
Voilà, maintenant. Donc, okay. Comme beaucoup de running.
C'est le podcast. Voilà. On va commencer tout de suite avec Paola pour ton kiff. What is your kiff?
Attention,
mon kiff, c'est... Attends, je m'en souviens. C'est...
J'espère que tu t'en souviens.
Je vais faire un attention avant. C'est que je vais en parler avec beaucoup d'émotions. Et je suis cancer ascendant cancer. Donc vous étonnez
et
pas.
Il peut y avoir des larmes qui coulent.
Non, je vais pas pleurer. Mais c'est un truc qui m'a beaucoup touchée et tout. Et du coup, je vais peut-être en faire beaucoup. Mais je suis cancer ascendant cancer, donc on me pardonne. Voilà. En gros, je regarde pas The Voice cette année. Mais je vais faire un petit contexte. L'autre fois, j'étais en soirée pyjama avec des amis. Et il y en a un qui, à un moment, on faisait le jeu des musiques. Je sais pas si vous connaissez. On donne une situation hyper précise et on dit voilà dans cette situation quelle musique t'écoutes.
Ah oui, c'est des situations de quotidien,
c'est ça, mais c'était vraiment des trucs hyper précis.
Je
en
fais
mode
ça avec ma coloc tout le temps.
C'est trop bien. Je connaissais pas, c'est mais... trop bien.
Ouais, mais genre, bah, par exemple, une situation hyper précise, il y a un pote qui a eu c'est t'as économisé 10 ans pour acheter un voilier, tu t'es acheté ton voilier, tu pars enfin autour du monde et 3 heures avant de partir, tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, mais tu pars quand même. Et qu'est-ce que tu mets comme musique sur le moment où t'es dans le voilier et que tu vois cette personne sur le port te dire au revoir? Voilà.
C'est
ce genre de situation.
C'est Owl Nation.
Wow, je sais pas ce que je mets. Mais voilà, c'est un jeu qui est trop bien et on fait ça en mi-fin de soirée, enfin vers 2h. Voilà.
C'est très bien.
En couvre-feu, c'est un peu la fin de soirée. 2h. Mais voilà. Et à un moment, on a un copain qui d'un coup s'arrête et fait attendez. Ça m'inspire un truc, faut que je vous fasse écouter un truc. Et c'est un copain qui est très chaud en musique. Et du coup, je sais que généralement, quand il nous dit faut que je vous fasse écouter un truc, c'est que vraiment faut se concentrer, quoi. Et il m'a fait écouter. Alors, c'est une reprise de Tata Yo-Yo, mais rigolez pas. Rigolez pas parce que, franchement, allez écouter là ceux qui se moquent parce que vous allez comprendre. De The Voice par Jim Bauer, si j'espère que je dis bien son nom, qui est le fixe d'Alex Axel Bauer.
Axel Bauer. Ah ouais.
Axel Bauer, celui qui chantait Les machines dans ma tête là.
Machine dans ma tête, machine sous mes tempêtes.
Voilà. Et ben, wow. C'est son fils qui fait The Voice, qui a fait une école de théâtre et tout. Et en fait, il a repris Tata Yo-Yo. Mais en fait, c'est un truc de malade. Genre, comme. Enfin, il l'a repris en mode dramatique. Hein.
Ah, c'est pour ça que ça t'a ému.
Oh, bah,
je me demandais bien comment c'est possible.
Ah, mais vraiment, c'est. En fait, c'est. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est une chanson. Qui parle d'une. À la base, c'est chanté par une meuf et tout. Et du coup, quand t'entends ça, tu penses au carnaval, tu penses à Rio. Enfin, c'est un peu voilà, l'empreinte qui est mise dessus. Et en fait, lui, il la chante et il y a des paroles dedans. C'est genre, les Brésiliens m'ont surnommé la folle du Brésil. Les enfants me trouvent un air plus rigolo. Et du coup, ça prend une dimension, mais qui est tout autre.
Oui.
Tu vois ou pas? On a l'impression que. Ça me fait. Ben, on en parlait pas avec Aïda, pas du tout. On en parlait avec Audeline de la rédac. Et en fait, où je lui disais, ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, comme ils disent là.
Oh, j'adore cette chanson.
Oui, moi aussi, évidemment.
Oh, mais je suis d'accord. Je la danse quoi qu'il arrive sur Aznavour.
Voilà. C'est vrai. Aznavour.
C'est pas faux.
Non, mais vraiment, c'est pareil. J'adore. De toute façon, la chanson française, voilà, je suis in love. Et en fait, ça m'a fait penser à cette chanson-là parce que il y a des phrases qui prennent un sens tout autre. À la fin de la chanson, il dit je les entends dire, ah, qu'elle est belle. Un gosse a dit papa, je la veux pour Noël. Et en fait, ça, enfin vraiment, la manière dont il la chante, en plus il a ce genre de voix qui, un peu dans les aigus, se brise, vous voyez. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que il met beaucoup de silence dans ses chansons. J'ai fait beaucoup de théâtre et au théâtre on nous disait tout le temps les silences, c'est dans les silences que se jouent le plus de choses en fait. Parce qu'au théâtre on a tendance à parler trop vite et à pas laisser de silence parce qu'on a peur du silence et du public silencieux et tout. Et en fait lui, je pense qu'il a fait une école de théâtre et que ça joue. Il laisse des silences dans ses chansons et c'est impressionnant sur cette reprise parce que derrière, t'as juste une guitare électrique, je pense, mais c'est presque
pleure
a cappella.
Pas, Paola.
Comment ?
Pleure pas, Paola.
Non, j'ai pas pleuré. Juste que je me suis étranglée avec ma salive. Parce que je parle trop. Ma salive, elle va faire des ondes. Mais c'est bon, j'ai gloupé là, c'est bon.
J'ai gloupé.
Super. Mais non, il y a juste une guitare derrière. En fait, t'as très peu d'instruments sur cette reprise-là. Et du coup, les silences existent vraiment. Et c'est. Moi, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Et je regarde plus The Voice depuis 2-3 saisons. Mais j'avais quand même un top des reprises, quoi. Il y avait déjà Le Port d'Amsterdam d'Antoine.
Ah ouais!
Parce que voilà.
J'ai pas l'air de... Ah ouais, c'était trop bien.
Voilà, où c'était incroyable. Il y avait Johan Launay, je crois. J'espère que j'écorche pas son nom. Qui avait repris Ces gens-là de Brel encore et qui était impressionnant. C'était aux auditions à l'aveugle. Ouais. Et en fait, à chaque fois, ces trois mecs-là, donc avec Jim Bauer, c'est des gens qui interprètent en fait la chanson. Et je trouve ça hyper fort parce que souvent les gens chantent et interprètent un peu à côté quand même. mais eux, c'est vraiment, c'est des interprètes et ils chantent, tu vois. Mmh. Et je trouve ça, enfin, moi qui suis une théâtreuse depuis 15 ans au moins, je sais que c'est ce qui me touche le plus. Et juste à l'audio, le mec, il est, enfin, je vous conseille d'ailleurs d'écouter que l'audio en premier sur YouTube et puis après d'aller voir la vidéo parce que pour le coup, avec le visuel, ça perd un peu, je trouve, pour cette reprise-là. Mais ouais, allez écouter parce que c'est, enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça. J'étais hyper touchée, quoi, et du coup, depuis, je l'entends et tout, et la musique, elle reste en tête, et c'est vraiment, je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui, on puisse autant surprendre les gens sur un titre comme ça, Tata Yo-Yo, tout le monde le connaît, ouais, mais sûrement pas dans ce sens-là, tu vois.
Bah ouais, c'est clair, non, mais c'est voilà. Vrai, et je trouve ça toujours impressionnant, enfin, moi, ça m'arrive peu de fois, mais il y a certaines chansons comme ça que tu réécoutes en reprise, et qui deviennent...
Différentes, ouais.
Même plus que différentes, c'était préféré par rapport à l'original,
ah, oui,
tu
oui,
vois.
Oui, 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 bien sûr.
Et il y en a peu qui font ça, mais bah, Kalindi en a parlé l'autre fois, la reprise de Camélia Jordana de Dalida. Bah, après, je sais pas si je préfère l'original ou non, mais tu sais, t'as des trucs comme ça, des interprétations différentes qui en fait te touchent directement.
De ouf,
parce qu'en plus, c'est beaucoup plus facile de te toucher avec une reprise, parce que tu connais déjà la chanson, etc. Mais de la faire surpasser l'original, c'est dur.
De connecter avec un truc au toi, et que la meuf, ou le mec d'ailleurs, qui l'interprète, va au-delà en fait de l'artiste de base, tu vois.
Oui, c'est ça.
C'est fou, ouais.
Mais même sans aller au-delà, par exemple, il y a Pomme qui avait repris Désenchantée de Mylène Farmer et la reprise avait beaucoup tourné et je trouve que ça surpasse pas forcément, mais c'est tellement ancré dans une époque Désenchantée que ça prend tellement un autre sens pour nous que sa reprise à Pomme, elle est, enfin, outre le fait qu'elle ait une voix magnifique, voilà, c'est sa reprise, elle est aussi impressionnante. Et Tata Yo-Yo, moi pour le coup, j'avais jamais, je crois, écouté le titre. Genre, je connaissais juste ce genre de musique qu'on connaît sans les entendre, parce que bon, tout le monde connaît. Donc, je connaissais deux titres, mais il me semble pas que j'avais déjà écouté. Et je suis quand même allée voir, après avoir écouté ça, j'étais en mode, waouh, mais à la base, c'est quoi la signification? Et là, j'ai regardé l'ancien clip et j'ai fait, ah ouais, d'accord, ça n'a pas du tout le même sens. C'est assez impressionnant, vraiment. Et j'ai trouvé ça impressionnant de la manière dont une chanson, en plus, si elle est chantée par une personne, enfin même de genres différents, etc. Comment ça prend un tournant totalement différent, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà. Et je pense que c'est mon kiff parce que ça m'a vraiment marqué en mode The Voice, ça existe depuis 10 ans, je crois, pratiquement là, et
en
c'est
plus,
vraiment plus, je sais plus, 12 saisons.
C'est pas The Voice 11 là qu'on voit, non?
Aucune idée.
C'est pas mal. Enfin, 10-12 ans. Mais,
ouais, 10 ans peut-être.
Il y a 3 prestations qui m'ont marqué, quoi. J'ai regardé au moins 8 saisons et vraiment lui, il entre dedans, mais de plein fouet.
Direct.
Quoi. Vraiment.
Top 3.
Ah ouais, vraiment. Il est dans le top 3 de ouf.
Okay.
Donc voilà, ça m'a chamboulé, écoute.
Et bah c'est bien, c'est fait pour ça.
Voilà. Ouais, je vais aller l'écouter.
Ah, je vais aller l'écouter direct en sortant, vraiment.
Après, je vais pas vous avoir vendu un truc que vous allez détester. Les gens, ils vont m'envoyer des messages en mode. C'est nul, mais non, peut-être que je suis un peu hypersensible aussi, désolée. Mais
c'est pas grave.
Mais voilà.
Il y en a beaucoup ici, je crois. Il y en a beaucoup dans cette boîte. Merci Paola pour ton super kiff. J'ai hâte de l'écouter. Aïda.
C'est mon tour.
C'est ton tour. Quel est ton kiff?
Eh bien, mon kiff est très différent de celui de Paola, mais en même temps un peu similaire, parce que c'est pas quelque chose qui m'a émotionnellement beaucoup touchée. Mais c'est une personne qui m'a physiquement beaucoup touchée, puisque mon kiff...
D'accord.
C'est...
En plan cul.
Allez, bisous. Non, mon kiff, c'est aller chez l'ostéo.
Oh, d'accord. Ouais.
Et en fait, c'est un kiff un peu banal pour plein de gens, mais pour moi, ça veut dire un truc un peu particulier, qui est que c'est un kiff d'adulte.
C'est vrai.
Allez chez l'ostéo, la première fois que tu vas chez l'ostéo, t'es sur la pente descendante, genre vraiment.
C'est exactement ça. Tu viens de résumer ce que j'allais dire dans mon intervention. Tiens, en fait, il y a 3 mois, j'ai eu 29 ans. Voilà, fin. du coup, je sais pas, ouais, il y a 3 mois, j'ai eu 29 ans et tu sais, je commence à sentir physiquement le truc de la gueule de bois qui dure 4 jours. Le fait que, bah ouais, en fait, ton corps, il commence à sentir les trucs de fatigue un peu plus longtemps que jadis quand
c'est
j'étais jeune.
C'est triste,
t'as
29 ans, putain.
Ouais, grave. Après, il y a aussi le confinement et le télétravail qui jouent.
Ouais. C'est clair.
Et enfin, je sais pas vous, mais juste moi, je télétravaille n'importe comment. Enfin, je me mets dans des positions qui n'ont pas de sens.
Oh, ça va, mais c'est juste qu'on bouge plus, quoi.
Enfin, bah ouais.
Moi, j'ai même pas de bureau. Je me travaille dans mon lit.
T'es sur ton lit, toi.
C'est un enfer.
Sur mon canapé, c'est.
Mais moi, en fait, j'ai un bureau, mais c'est un bureau qui est dans mon salon. Et du coup, comme j'ai pas un super grand appart, ça me fait trop chier d'avoir un siège de bureau trop moche dans mon salon. Du coup, ça fait un an que je cherche un siège de bureau qui soit un peu ergonomique et qui me bousille pas le dos, mais qui en même temps soit pas hideux.
Un peu joli, ouais,
ouf. J'en ai un très beau, ma coloc en a acheté un très joli, oui, je te le montrerai.
Ah ouais, file la rêve, parce que moi j'en peux plus.
Mais je pense que ça peut être assez plein de gens en vrai, parce que moi aussi j'en cherche une.
Eh ben, on pourra faire une sélection
sur Mademoiselle.
Mais grave.
Non, mais ouais, c'est un vrai truc. Genre, ça fait vraiment super longtemps que je cherche désespérément un siège de bureau pas moche et j'en trouve pas.
Et surtout pas à 600 balles, quoi. Parce bah que ouais, c'est ça le problème.
C'est la notion de budget qui rentre là-dedans, quoi. Et du coup, je me nique le dos. Donc en fait, je passe mon temps à avoir des espèces de douleurs de vieille un peu partout dans le corps et tout. Je commence à avoir un peu mal dans les avant-bras. Enfin bref, c'est un peu chiant. Et donc bref, tout ça, c'est un peu chiant. Et donc, je me suis dit, allez Aïda, maintenant t'es une vraie adulte et tout, prends rendez-vous chez l'ostéo. Et c'est un truc qui me terrifiait de ouf, parce qu'en vrai, j'aime pas du tout qu'on me touche. Genre, ouais, les gens que je connais pas qui me touchent, ça me dégoûte un peu. j'aime pas la bise, j'aime pas trop les contacts physiques et l'affection avec des gens qui sont pas super proches de moi et tout. Et du coup, j'étais là, putain, en plus, je vais me faire... Enfin, tu sais, l'ostéo, c'est un truc qui paraît un peu spectaculaire quand tu connais pas, tu vois. Genre, j'étais là, purée, il y a quelqu'un qui va me faire craquer la tête. Moi, ça va me stresser. Du coup, je vais pas être détendue. Du coup, je vais mourir parce que la personne, elle va me faire le coup du lapin. Car
c'est... Bah oui, oui, bien sûr, parce que c'est le développement logique de ce rendez-vous.
C'est pas ça, dans 80% des cas, les gens meurent après l'ostéo.
Bah, c'est ce que je croyais, vraiment, sincèrement. Ça faisait des mois que je repoussais ce truc-là. Et en même temps, je m'étais dit, vas-y, tout le monde me dit que c'est trop cool et que c'est utile et tout. Donc, je vais y aller. Et donc, je suis allée sur Doctolib et j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo.
N'importe quel ostéo. Car sais-tu que tous les ostéos ne sont pas pareils ?
Eh bah, ben, je savais pas.
Oui, c'est vrai. Genre, il y en a qui craquent pas, par exemple.
L'intervention de la bonne élève.
Bah, moi, j'en ai un. Ouais. Alors, si je peux digresser sur ton kiff.
Ah oui.
en fait, moi, j'étais allée voir un ostéo juste avant mon départ en Inde. Parce que je suis partie en Erasmus pas du tout, mais en échange universitaire 3 mois en Inde.
Trop bien.
Et avant de partir, bah, j'ai un peu fait le tour de mes médecins, tu vois. Et moi, j'ai des problèmes de cervicale depuis que je me suis pété la gueule quand j'étais... Je devais avoir 14 ans, j'étais dans un village vacances, il y avait un ventre glisse. J'en ai fait un article sur Mademoiselle. Et il y avait un ventre glisse, et en fait, au lieu de glisser sur le ventre, eh ben, je me suis rétamé la gueule sur le dos et je me suis cognée la tête. Et donc, je me suis évanouie et tout. Et en me réveillant, donc le comment s'appelle-t-il ?
Moniteur ?
Le moniteur, tout à fait, m'a réveillée avec un jet d'eau dans la gueule. Et il m'a dit, tu peux y aller. Et du coup, j'avais les cheveux vraiment en vrac et tout, partout, dégueulasse. Et ma pote me dit, bah viens, on va se baigner, ça ira mieux. Tu sais. Puis je commençais à pas trop me sentir dans mon corps et tout. Et là, j'ai vu ma mère, j'ai commencé à chialer. J'ai dit, je vois plus trop sur les côtés. Du coup, ma mère a hurlé, elle a appelé les pompiers. Enfin bref, voilà, donc civière, hôpital, nuit là-bas, quoi. Et en fait, j'avais fait une entorse des cervicales.
Ah ouais.
Mais j'avais 14 ans, donc j'avais vraiment pas envie de porter une Minerve pendant mes 10 jours de vacances au soleil.
Tu me donnes.
Donc, j'ai porté ma Minerve, mais j'avais des rendez-vous chez le kiné, auquel je ne suis jamais allée, puisque j'ai planté mon père, qui m'a dit « Tu veux pas y aller ? Eh bien, on n'ira pas.
Voilà. » Ah ouais.
Et finalement, je devais reprendre le kiné quand je suis rentrée à Nantes, et puis je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, j'ai des petits problèmes de cervicale. Et donc j'étais allée voir, tout ça pour dire que je suis allée voir un mec.
T'as digressé sur ta propre digression. Incroyable, vraiment well done.
La méta-digression, ouais. Et donc je vais voir ce gars. Et apparemment, c'était un ostéo un peu énergie,
quoi.
Ouais, voilà. Parce que juste avant, j'étais allée voir une médecin chinoise qui m'avait dit... qui m'avait dit qu'elle pouvait pas régler mon problème de cervicale, qu'il fallait que j'aille voir un ostéo. Bon, voilà. Comment je suis arrivée à cet ostéo. Et donc, en fait, le gars, trop bizarre, pendant toute la séance, juste, il me touchait à des parties du corps. Donc, il me touchait derrière la tête, là, sur la nuque. Il me touchait le bassin et il me touchait le coccyx. Je sais plus. Bon, bref.
Le coccyx, c'est
Et donc, il me mettait de l'énergie, je sais pas quoi. J'étais là, vraiment, c'est pour ça que je paye 80 balles, là. Enfin, et en fait, il est complètement rentré dans ma tête. Vraiment, le gars, j'ai jamais vu ça. Et il me disait des trucs sur WAM, tu vois, j'étais là. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Enfin, c'est très gênant. Et ça m'a fait pleurer.
Ah ouais ?
Ah ouais, j'ai pleuré.
Ah oui, ça vraiment de plus lui. Hein.
Ouais, de détente. Enfin, tu sais, de genre de lâcher prise et tout. Genre vraiment, ça m'a fait pleurer. Et il m'a dit en Inde, promenez-vous un peu avec les pieds nus. Ça vous reconnectera à la terre.
Ah, mon père, il fait ça.
Eh ben oui, mais c'est un vrai truc.
J'ai ça tous les matins.
Eh ben...
non, mais attends, mais en plus, c'est non, parce que attends, je veux pas même digresser. Parce que c'est incroyable cette histoire. Vraiment, mon père, il me l'a trouvé. On habite en Bretagne, enfin, mes parents habitent en Bretagne, et on habite vraiment tout proche de la mer. C'est-à-dire, la mer, elle est à 20 mètres. Mais on n'a pas de jardin.
Ça a l'air si bien.
C'est trop bien. Mais par contre, on n'a pas de jardin. Et mon père, pareil, dans ses crises d'énergie, on lui a conseillé d'aller pieds nus marcher ouais. sur l'herbe. Et donc, du coup, le matin.
Bah c'est exactement ce qu'il
m'a dit. C'est-à-dire, il sort de la maison à pieds nus, il traverse la route et il va sur l'espèce de terre-plein d'herbe devant la mer. Marcher pieds nus.
Terre-plein d'herbe. Voilà. J'imagine sur un rond-point, quoi.
C'est un peu ça, sauf qu'il y a la mer, donc c'est joli. Voilà, bref.
C'est quand même parenthèse terminée.
Non, mais c'est ça. Il paraît que c'est incroyable. Le même ostéo que moi, parce que moi, il m'a dit vraiment, ça va te reconnecter à la nature. Et c'est vrai, quand tu réfléchis, on marche jamais pieds nus à même le sol parce que.
Parce qu'à Paris, c'est les galères.
À Paris, il y a du béton partout, mais même c'est du béton, c'est même pas le sol. Bah ouais. Tu te reconnectes même pas à la terre, tu vois.
C'est vrai, on n'est jamais connecté à la terre.
Ouais, et t'as toujours des chaussures, et t'as toujours. Moi, je me balade en tatane, tu vois. Enfin bon, bref, en claquette Miami. Et
avec des chaussettes.
Vraiment, et avec des chaussettes, bien sûr, sinon ça appuie des pieds et ça glisse. La moiteur des pieds, bon, bref. Et ouais, de se balader un peu pieds nus, et je l'ai fait un peu en Inde. Et j'avoue, j'ai pas fait gaffe plus que ça si ça m'avait changé la vie.
Mais... j'avoue, c'est ça.
Ouais, tu conseilles.
Mais là, j'ai envie de le faire, tu vois.
Mm.
Ah bah là, du coup, tu m'as donné envie.
Ouais, d'ouf, moi aussi. Clair, ouais. Je vais aller au bout de chemin. Bah...
la meuf, la zinzin le matin qui va marcher au bout de chemin.
C'est au bout de 1 km, tu sais.
Sur des mégots de clopes et des crottes de chien.
C'est ça. C'est même pas voilà. artificiel les buts de Chaumont.
Si, c'est une colline artificielle en plus.
Ouais, voilà.
Bon, on va pas commencer à faire le tour de Paris parce que là. À la base, attendez, fun fact, mais je crois que j'ai déjà dit dans un podcast de LMK. À la base, c'est là où on pendait les gens au but de Chaumont.
Ah bon ?
Voilà. On pendait les gens ?
Ouais, on pendait les gens là-bas.
Wow. Ok. Et c'est devenu là. Où ouais, on emmène les enfants faire un pique.
Exactement,
c'est
voilà. Super. On en parlera dans un prochain.
Tu sais qu'à Nantes. À Nantes, la place du Bouffet. Je sais pas si vous voyez la place du Bouffet à Nantes. C'est une grande place qui est très bizarre parce qu'elle est toute carrée et t'as un peu des restos autour, donc ils mettent un peu des chaises, mais il se passe
ça,
rien.
C'est bizarre, ouais.
C'est une place très bizarre et en fait, maintenant, il y a beaucoup d'artistes, parce qu'à Nantes, il y a beaucoup d'artistes de rue et notamment des expositions de rue éphémères, mais qui restent... Nantes, voilà, Nantes, capitale culturelle. Et en fait, cette place, c'était la place de la guillotine et des pendus. Et en fait, il y avait tellement de sang... Ah oui. Sur cette place par terre, qu'ils ont tout repeint en rouge comme s'ils se sont dit ouais, ça fait un
peu nickel.
Voilà, je suis pas sûre de la véracité de cette histoire, mais voilà.
J'adore la légende.
Vous nous direz.
Propageons-la. Du sang sur la place publique.
Ouais.
Du coup, je pense qu'on peut revenir peut-être au Kizaida.
Ouais, peut-être. Merci.
Merci de recentrer.
Marie sera mon animatrice intérim aujourd'hui, puisque je suis vraiment en roue libre. Ouais, tu fais mes bacs de ouf.
Après cette roue libre totale. Non, bah écoute, du coup, voilà, je suis allée chez l'ostéo en ayant train un peu. Ah oui, la question c'était n'importe quel ostéo.
Ouais, ça.
Non, parce que j'avais très peur de plusieurs choses. Le truc de me faire craquer la nuque et de mourir avec le coup du lapin et tout. Et. J'avais aussi entendu des trucs absurdes parce que plein de gens différents m'avaient conseillé d'aller chez l'ostéo.
Plein de gens ou Doctissimo.
Les trucs Google. Sur internet que je regarde la nuit quand j'arrive pas à dormir. Non, plein de gens de mon entourage et notamment des gens qui m'avaient dit ah ouais trop bien d'aller chez l'ostéo. Par contre, tu verras, c'est un peu gênant parce que bon, t'es nu et du coup il te fait craquer partout et
t'es
tout.
T'es nu.
Et j'étais là mais tu peux te rendre compte pas qu'on est on est censé être nu chez l'ostéo et tout, c'est un peu... Enfin, j'avais entendu des histoires hyper étranges d'ostéo, très peu recommandables. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais aller checker un peu. Je voulais un truc pas loin de chez moi parce que couvre-feu, tout ça. Mmh. Et je m'étais dit, allez, je vais aller regarder un petit peu les avis Google, on verra. Et donc, je suis tombée sur cet ostéo qui est juste à côté de chez moi et qui avait un nombre d'étoiles incroyable. 5 étoiles comme sur Apple Podcast et tout ça.
Ouais,
Apple
Podcast, 5 étoiles.
Et de gens qui disaient, ah, elle est vraiment trop cool, elle est super douce, allez-y, vous aurez pas peur et tout. Je me suis dit, ah, trop bien, c'est ce qu'il me faut, machin. Donc, j'y suis allée. Et en fait, moi, je connaissais pas justement ce truc des différents types d'ostéo. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais même pas dans quelle mesure genre l'ostéopathie c'est considéré comme de la médecine douce ou de la médecine tout court. Enfin bon, j'y suis allée les yeux fermés en me disant allez, on va voir ce que ça donne et tout. Et donc j'y vais, elle me demande un peu pourquoi je viens, je lui explique que j'ai mal partout, que je télétravaille n'importe comment, que comme je suis un peu stressée, j'ai des douleurs dans la nuque et tout. Et elle me dit bah allez-y, vous inquiétez pas, on va y aller doucement, machin. Et en fait, elle m'a pas du tout fait craquer. Elle m'a fait un peu ce que toi, tu racontes, Alix. Elle m'a fait des points de pression dans la nuque. Elle est partie de ma nuque. Et elle m'a dit, ah ouais, non, en fait, c'est pas du tout... Enfin, vous avez mal dans la nuque, mais c'est un problème qui vient du bassin. Et en fait, vous êtes pas du tout aligné. Et en fait, en me touchant un peu partout, donc au niveau des cervicales, de la nuque, du dos, du coccyx et genre du diaphragme, elle m'a dit, mais Aïda, c'est n'importe quoi. Genre, t'es complètement tournée vers la droite et t'es recroquevillée n'importe comment. En fait, je me suis rendu compte que je me tenais pas droite depuis des années. Ah ouais. Et que j'étais juste complètement genre tordue vers la droite en permanence, sans m'en rendre compte. Et du coup, elle m'a un peu... En fait, elle a fait des points de pression partout sur mon corps pour me détendre. Et c'était un peu lunaire parce que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, la meuf, elle l'appuyait un peu partout sur mon corps et elle soufflait super fort.
Dans ta tête ?
Ouais, n'importe où. On était masqués toutes les deux parce que Covid et tout. Mmh. Mais il y avait un truc super mystique, quoi. Genre, elle m'appuyait dans le dos et après, elle faisait... dans 45 secondes, quoi. Et moi, j'ai vraiment passé la première moitié de la séance à me dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Oui, tu te dis toujours, c'est pour ça que je donne mon argent, c'est pour ça que je donne mon argent.
Bah
et
ouais.
Après, une fois que tu te détends, en vrai.
Et puis moi, je suis pas hyper. Tu sais, il y a des gens qui sont hyper rationnels et qui sont en mode, ouais, il y a qu'un seul type de médecine, machin, les sciences occultes, ça existe pas, machin. Moi, je suis pas trop comme ça. Je suis pas non plus du genre à dire que j'y crois à fond, mais je me dis, dans la vie, c'est bien de manger à tous les râteliers.
C'est une bonne philosophie.
Mais ouais, je suis d'accord, en vrai.
En vrai,
pourquoi pas tenter des trucs qui pourraient marcher mieux?
Bah ouais. Ouais, c'est exactement ça. Puis si le truc, c'est que si t'y crois, ça marche, autant croire à tout. Comme bah ça, oui. Ça marche tout le temps.
Bah oui, c'est ça. Mais grave, mais
tant que
grave
ça marche, en fait.
Bah ouais.
C'est ça, tant que ça marche et tu fais de mal à personne.
Bah ouais, voilà. Bon, après, là, je payais, donc il fallait que ça marche.
T'as intérêt.
Mais tu as cru très fort.
Je me suis dit, grave, fais confiance au truc, ferme les yeux et tout. Et déjà, je me suis rendu compte en le faisant que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu une heure, genre à rien faire, à avoir. Là, en l'occurrence, il y avait l'ostéo qui me massait un peu, enfin qui faisait en sorte que j'ai plus mal. Mais en fait, juste, j'étais allongée, je pensais à rien, tu vois. Et en fait, ça faisait des lustres que j'avais pas. Passer un moment à pas être sur mon téléphone, pas être en train de faire un truc, pas courir, pas bosser et tout. En fait, moi, si je m'allonge et que je ferme les yeux, je dors, quoi. Il n'y a pas de détente et de respiration et de méditation et tout. Et donc là, c'était un truc hyper cool parce qu'il y avait un côté super méditatif. Donc moi, j'étais là, je pensais à ce qui me stressait et tout. En me disant, allez, ça va passer, respire. Et en fait, ça a hyper bien marché. J'étais choquée. Je suis repartie en étant hyper détendue. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait... défait certains points de pression dans mon dos et un peu partout et dans mon bassin vu que j'étais tordue, tout ça. Et qu'en fait, dans les semaines qui allaient suivre, il y a d'autres points de tension qui étaient nés du truc de base qui allaient se défaire petit à petit et que j'aurais peut-être des courbatures, que je sentirais un peu mon corps changer et tout. Et effectivement, tu vois, petit à petit, au fil des semaines, j'ai senti des douleurs apparaître à certains endroits et ensuite se défaire complètement au bout d'une demi-journée, me dire ah, purée, je me sens mieux, je respire mieux, je suis hyper, hyper flex, hyper détendue. Et du coup, c'était ouf. Donc là, j'ai...
Toi, je sens que le next step, c'est la médecine chinoise. J'ai un médecin chinois incroyable.
Mais envoie...
On va te mettre des aiguilles partout, là.
Envoie les acupuncteurs.
C'est l'acupuncture, c'est ça ?
Ouais, j'en avais fait un peu.
Et très alors, bizarre. C'était bien.
Ma phobie.
Bah, ça te fait des petits... Enfin, moi, c'était surtout sur les mains. Ça m'avait fait des petits courants électriques quand elle te met les aiguilles, tu vois.
Ouais. Okay. C'est les nerfs, non ?
Et je sais pas où elle les plante. Mais en fait, elle bouge toute seule, les aiguilles.
Ah ouais ?
Ouais, elle travaille.
C'est pas
donc,
vrai.
Mais tu les vois pas vraiment à l'œil nu, tu vois. Mais après, elle m'a dit, parfois, j'en ai vu à l'œil nu bouger vraiment pour les gens qui ont beaucoup de travail à faire, quoi. Et en fait, elle t'en met à certains endroits pour libérer certains trucs. Et moi, elle voulait pas m'en mettre au niveau entre les inses, là. je sais plus comment ça s'appelle.
Le diaphragme, non ? Ou le plexus ?
Le plexus, ouais, voilà. Elle m'a dit, si je vous en mets dans le plexus, vous allez pleurer pendant 2 semaines. Parce que vous avez trop d'émotions à libérer. Et ben j'étais là, super.
Bon, laissez-les là, hein, on va pas l'emmerder.
Voilà. Elle m'a dit, pour une prochaine séance, et puis je suis jamais retournée. Mais non, mais c'est agréable, tu vois, de... Même, tu vois, de tirer la langue et tout, elle te dit ce qui se passe. C'est marrant.
C'est ouf.
Ça fait plus peur que l'ostéo.
Ah, moi, ça va, j'ai pas trop la phobie des aiguilles.
Non, mais je veux dire, les aiguilles, ça va quand c'est genre un vaccin ou un truc comme ça. Mais je trouve que ça va quand il y en a qu'une. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs.
En plus, t'es un peu en croix. Ouais. Et tu sais, t'es là.
Je peux bouger, hyper.
Oui, en plus, moi, quand on me dit ne pas bouger, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de bouger. Vraiment.
T'es vraiment une rebelle, Paola.
Bouge pas, ok. Non, non, vraiment, c'est. Je sais pas, ça me. C'est comme chez le dentiste quand ils disent. Respirer par le nez. Mais du coup, la première chose que j'ai envie de faire, moi, c'est respirer bien fort par la bouche et bien me baver là parce que ça me stresse.
Mais ça va pas le la tête. Arrête de provoquer les gens, Paola.
Non, c'est non, c'est pas pour provoquer, c'est juste que du coup, on me dit. Enfin, faut jamais dire à quelqu'un de pas penser à un truc parce qu'il va y penser.
Bien sûr. Mm.
Pense pas à un éléphant rose. Tu penses à quoi? Un éléphant rose.
Non, un éléphant rouge.
Ah, bien sûr.
Parce que moi, je suis pas une élève.
Bah non, du coup. Alex. Ah oui, pense pas, non, c'est ta raison, pardon. Excuse-moi. Mais du coup, voilà, c'est du coup, ça me fait peur tout ce genre de truc là, de pas bouger, respirer bien fort chez l'ostéo. Mm.
Non, mais c'est vrai que ça détend quand même, au-delà de. Enfin, même si tu vas pas faire le médecin chinois, mais ça détend, c'est vrai, de même te faire masser un peu, tu vois.
Mais moi, c'est mon goal, hein. Dès que je peux, je me fais un massage tous les mois, quoi.
Ah ouais, ouais, mais toi, tu fais un massage.
Massage. Ouais, parce que en fait, j'aimerais bien aller chez l'ostéo, mais à chaque fois, je me dis, effectivement, je sais jamais quel professionnel choisir parce que j'y connais rien. En plus, je sais pas si c'est remboursé.
Non, c'est pas remboursé. Non,
je crois qu'il y a une partie qui peut être prise par la mutuelle.
Ouais.
Oui, ta mutuelle, mais pas
la sécurité. Moi, je suis un peu du genre, en fait, si j'ai pas besoin, c'est-à-dire, si je suis pas malade, si j'ai pas. Ben, je vais pas le faire. Donc, c'est un peu con. Alors que le massage, je considère ça comme un plaisir. Et en plus, moi, je kiffe quand on me craque, quand vraiment les massages dynamiques et tout, tu vois. Donc, je pense que je pourrais kiffer.
Les massages thaï un peu.
Ouais. Ah ouais, ouais. Plus tu me tends dans tous les sens.
Je m'étais fait masser en Thaïlande. J'avais pas compris ma douleur. Vraiment, 0% détendu. La meuf, elle m'est montée dessus, tu vois. Genre, j'étais là. Vraiment. On était avec mon pote et tu sais, on est rentré dans ce massage. On s'est dit, on allait se faire masser. On est en Thaïlande. Et on rentre et on se met tous les deux à plat ventre. Et il y avait un petit rideau et on se voyait sous le rideau. Ah ouais. Et on se regardait comme ça, genre.
Ça va, ouais.
Oh, l'agonie.
Ah ouais. Mais puis elle te marche dessus.
Après, du coup.
Je me souviens plus.
Et du coup, t'as pas été genre ultra cassée par contre après ta séance le soir?
Si, j'étais. Il paraît que c'est fatiguée, assez. Ouais. J'étais vraiment claquée de ouf. Mais c'est passé assez vite. Ouais. Elle m'avait dit que je dormirais bien. Et en fait, trop drôle parce que j'étais en mode ah trop bien, je vais être trop détendue et trop bien dormir et tout. Et j'ai tellement pensé à ça que j'ai trop mal dormi. Ouais, c'est sûr. J'étais là, c'est pas normal, je dors pas encore. Elle m'avait dit que je dormirais bien.
Elle m'avait dit que.
Psychopathe.
T'as l'air d'être stressée, Aïda.
Non, tout va bien en ce moment. Ça va, juré.
Non, mais trop bien. Bah, j'espère que tu y retourneras parce que il faut suivre un petit peu l'ostéo.
Écoute, c'est la chute de cette histoire, c'est que c'était trop bien et j'ai trop envie d'y retourner. Et pourtant, je n'y retournerai peut-être jamais. Parce que ce qui n'était pas écrit Google Maps quand j'ai regardé les avis, c'est que cette personne officie dans son appart. Son appart est au 13e étage d'un immeuble. Et j'ai vraiment très peur des ascenseurs. Et du coup, bah non, tu vois, je me suis forcée à prendre l'ascenseur en mode Aïda, t'es pas une gamine et tout. C'est bon, on monte dans l'ascenseur et ça ira. Et en fait, son ascenseur, il était horrible. Genre, il fait des bruits de l'enfer. 13 étages, ça prend vraiment 5 minutes parce que c'est un vieux truc qui date des années 60, tu vois. Et en plus, il y avait des trucs trop chelous dans l'ascenseur parce que visiblement, il y avait eu un déménagement dans la journée et du coup, il y avait des trucs blancs par terre avec des taches rouges, tu vois, sous les néons de l'ascenseur. J'étais là, non, mais on dirait qu'il y a eu un meurtre et tout.
Donc juste pour l'ascenseur, tu retourneras pas, quoi?
Bah, je sais pas. Okay. Je me dis, est-ce que je vais réussir à dépasser ma peur des ascenseurs pour aller chez l'ostéo?
challenge.
Ouais, est-ce que je vais demander à mon mec de m'accompagner? Mais genre, tu peux m'emmener chez l'ostéo et tout?
C'est très mignon.
Parce que la meuf, elle fait ça chez elle. Donc en plus, il n'y a pas de salle d'attente où il peut m'attendre, tu vois.
Ah ouais,
faut qu'il prenne l'ascenseur avec moi et qu'après, il se casse. Et qu'il vienne me chercher. Ça n'a aucun sens. Pendant 45 minutes. Ça va quand même. Ouais, non, mais voilà, du coup, je sais pas.
Un vrai suspense jusqu'au prochain épisode.
Et voilà, vous aurez des nouvelles.
On veut savoir si tu as dépassé la phobie de l'ascenseur.
Trop bien, merci beaucoup, Aïda.
Trop bien, merci.
Et je suis contente que tu ailles mieux et que tu sois détendue.
Merci pour votre soutien à ce kiff.
Marie, quel est ton kiff?
Eh bien, mon kiff, c'est une personne que je suis sur Instagram, figurez-vous. Il y a quelques mois, je vous ai parlé d'Elif Goldfarb, que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire.
C'est devenu un de mes comptes Instagram préférés.
C'est vrai, mais moi, j'adore. Là, elle est en vacances, c'est n'importe quoi.
C'est enfin,
vraiment, je rigole, mais vraiment, je rigole à gorge déployée.
Ah ouais,
tu vois, quand c'est
une série,
c'est incroyable. Ouais. Et donc là, c'est une autre personne qui est quand même très cool aussi, qui est en fait le cofondateur du restaurant Oli Belli à Paris.
Je l'adore.
Il s'appelle Nico. Et donc, il a cofondé...
C'est les burgers, ça?
Non, c'est plutôt breakfast, brunch, lunch. Ok. C'est vraiment. Bah, d'ailleurs, je vais en parler un peu parce que.
Voilà, bien sûr, c'est ton kiff.
Donc, en gros, il a cofondé ce restaurant avec sa nana qui s'appelle Sarah. Il l'appelle Bibi comme surnom, c'est trop mignon. En général, il fait des stories en disant Bibi, elle fait ça, Bibi, elle fait ça. Elle est chef du restaurant et lui, il est plutôt à la partie barista, orga, logistique et tout. Et ce mec est vraiment trop trop drôle. En fait, c'est vraiment le visage de Holy Belly parce que c'est lui qui incarne un peu les stories qu'il fait quotidiennement. Il y a quotidiennement de stories sur le compte d'Holy Belly. Donc petit contexte, Holy Belly, c'est donc un restaurant à Paris qui est vraiment une valeur sûre pour moi, d'un restaurant de brunch, petit déjeuner, lunch pas cher, super efficace, service
mais
de
t'as
ouf.
T'as déjà mis des stories en plus.
C'est possible, ouais, j'y vais de temps en temps parce que la difficulté pour aller chez Holy Belly, c'est qu'il y a la queue tout le temps. Parce que
bah, ils font pas à livrer là en ce moment.
Si, ils font livrer, mais je vais y revenir. Tu vas voir, c'est incroyable. Ils sont parfaits. Je les aime trop. Ils ont une démarche ultra honnête et sincère dans tout ce qu'ils font. Et du coup, je les aime aussi pour ça. Et donc, effectivement, Holy Belly, le seul désavantage, c'est qu'il y a toujours la queue parce que, en fait, c'est trop bien. Enfin, vraiment, c'est de l'authenticité. C'est des choses simples et en même temps tellement bien faites, avec vraiment du cœur, tu vois, que t'as envie d'y retourner. Mais du coup, tu dois faire à peu près vraiment une heure minimum de queue pour y aller, quoi.
Ah ouais. Oh,
ouais. Donc je crois que j'y suis allée vraiment 4 fois dans ma vie, et à chaque fois par contre les 4 fois c'était vraiment génial, genre vraiment sans faute, tu te dis putain c'est trop bien quoi, on veut vraiment des restos comme ça. Et donc du coup Nico, le cofondateur, il fait plein de stories tout le temps pour montrer un peu les backstage, à la fois il montre l'équipe parce qu'ils ont quand même une team assez solide je pense depuis qu'ils ont ouvert le restaurant, et ils ont ouvert le restaurant il y a un bon petit paquet d'années, en 2013.
J'ai ah oui, quand même.
Ça s'est bien installé et donc maintenant ils ont vraiment une réputation de ouf. Ils montrent les coulisses, ils montrent aussi les galères, et ça c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus, c'est qu'ils ont un succès vraiment phénoménal. Bon, évidemment en ce moment c'est un peu compliqué puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir, mais ils trouvent des solutions. Mais avant ça en fait ils ont vraiment du succès de ouf, et en même temps ils restent super honnêtes dans la démarche, ils restent eux-mêmes. Et c'est aussi les galères. Donc c'est les galères, c'est par exemple la banque qui leur prélève des sommes n'importe quoi pour vraiment des raisons n'importe quoi. Et du coup Nicolas vraiment il n'hésite pas à dire mais hein, les banques c'est vraiment des branquignoles, vous me foutez de ma gueule et tout. Et il est sincère, tu vois, il est vraiment drôle et il n'hésite pas vraiment à tacler les gens. Donc à la fois il peut être ultra mignon, ultra gentil, etc. Et en même temps il clash sur les gens, et quand il ouvre sa gueule il y va à fond, un peu comme Elise Goldfarb en fait, qui ouais. vraiment n'est pas des os.
Ah bah, non, c'est pareil. Elle n'est pas des os, puis elle a pas peur de se mettre tout le monde à dos.
Exactement. Et lui pareil, en fait il n'hésite pas à taguer les gens en disant vous êtes des merdes. Tu vois.
Et je suis genre, j'adore.
Mais t'es vraiment fou, j'adore. C'est super, tu vois.
Si, je fais une autre digression, mais j'ai une copine.
Ouais. C'est ma passion.
Déjà, elle s'appelle Camille Lacour. Donc, elle s'appelle comme le nageur, mais santé à la fin. Et donc, Camille Lacour, donc, c'est une amie que je traîne depuis le collège. Et alors, sa passion, son compte Twitter, c'est essentiellement des réclamations. Et elle met des réclamations.
Ah ouais, je vois trop de gens.
Ah là 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 là. Faudrait que je vous en retrouve.
Ah, c'est incroyable.
C'est intolérable, messieurs, dames. Je demande remboursement immédiat et tout. Et du coup, comme elle le fait sur Twitter, et son compte, c'est un compte de réclamation.
C'est incroyable.
Et ben, du coup, elle a toujours des remboursements hyper vite, qui lui arrivent que des trucs
ouais,
de merde.
Ouais, c'est une client de chance.
Ah,
c'est
ouais.
C'est des vraies réclamations, genre, c'est pas des trucs.
Ah oui, non, c'est des vraies réclamations.
Mais elle a un karma comment, ta pote.
Ah non, mais parce que.
Enfin, un karma, pardon, une chance, elle a pas de chance. Quoi.
Ah oui, mais oui, puis en fait, elle va aussi. Enfin, tu vois, toi, parfois, je sais pas, attends, quelqu'un t'embrouille de 10 ouais. balles et t'es là. Pff, vas-y, flemme.
Ah non, moi, tu vois, genre.
Elle va chercher.
Ouais, de ouf.
Et ben.
Pas laisser passer.
Donc Camille Lacour, je sais pas ce que
Camille
c'est
Lacour,
son blast sur Twitter, mais allez voir, franchement, c'est du génie.
On va checker dans les comptes service après-vente de tous les gros trucs, genre Orange, SFR et tout. La meuf qui les hâte le plus.
Oui, c'est vraiment elle. Du coup, parfois, pour son anniversaire, on lui fait des réclamations en mode... on lui avait fait ça, je crois que c'était pour ses 25 ans. On lui avait fait une carte d'anniversaire en mode réclamation, tu vois.
Énorme.
Voilà.
Donc elle en a rien à foutre, clairement, de taguer les gens. Donc comme Nico. Et donc il est très marrant déjà, donc, parce qu'il raconte vraiment les coulisses avec une sincérité. Et des fois, je suis là genre, mais... Enfin, mec, t'as quand même un business, quoi. Mais pas toi, tout le monde ado. Mais ils s'en fichent, donc c'est génial. Il est vraiment en mode... nos marketing, tu vois, nos bullshit. Donc en fait, il veut vraiment faire de la cuisine authentique qui ressemble à l'esprit de lui, de la cofondatrice Sarah avec qui ils ont monté le truc. Il veut aussi clasher voilà tout ce qui est marketeur et tout. Vraiment, il est trop drôle. Il y a 3 jours, je crois, il a fait une story. Mais vraiment, je me suis pissée dessus. C'est trop drôle. En fait, il a été démarché par un commercial ou une commerciale du Goemio. Donc un guide de restaurant assez primé, assez prestigieux en fait. Ils l'ont contacté en disant « Oui, on aimerait bien faire un partenariat avec vous ». Il l'a un peu appâté. Et en fait, clairement, quand Nico s'est dit « Ah, trop cool, je vais les rappeler », en fait, le mec leur a dit « Bah, c'est 1500 balles pour une parution, tu vois ». Et Nico était en mode « Mais putain, c'est vraiment des merdes, en fait. On n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de la publicité. Vous faites du son du chat caca. » Enfin, genre, vraiment, il s'est roulé en tagant le goémio, tu vois. Et par contre, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois, donc il a fait sa story un peu coup de gueule en disant enfin, c'est pas la publicité qui prime, en fait, c'est la vie des clients, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, vraiment, il est trop mime quand il dit ça, tu vois. Et par contre, le Goemio a répondu à sa story en lui faisant un message, voilà, en disant on est désolé, quiproquo, nanana. Et il a la démarche honnête de dire bah voilà, voici la version du Goemio, je suis quand même pas d'accord, mais au moins vous avez l'autre partie du prisme.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est cool, je trouve qu'il est pas en mode moi, mon avis et tout, même si parfois il a un petit côté un peu réac, tu vois, genre de oui, la cuisine. Elle doit être comme ça, et nous, on fait des vraies choses valeurs. Alors qu'il a 30 ans, le mec, hein. Enfin, ouais. C'est pas un daron, c'est pas un vieux de la vieille, mais en tout cas, il a quand même des valeurs assez précises sur ce qu'il veut faire de son restaurant, l'authenticité.
Est-ce qu'un jour, on le verra dans Top Chef, tu penses ?
Je sais pas, parce que lui, pour le coup, il cuisine pas, c'est plutôt Sarah.
Okay.
Mais Sarah, elle a pas mal de parutions presse, elle fait pas mal d'interviews et tout, elle est plutôt bien connue. Lui, il est plutôt dans la partie un peu... logistique, ouais, du resto. Et donc, du coup, vraiment, dans leur démarche aussi de restauration, ça se voit. En fait, ils veulent que des produits un maximum locaux, responsables et tout. Et donc, notamment pour le service de livraison. Tu vois, un truc de ouf, ça m'a marqué parce que au moment du confinement et au moment des fermetures des restaurants, ils se sont posé la question, comment est-ce qu'on va faire tourner la boutique ? Ils ont été démarchés par vraiment plein de services de livraison. Hein, je vais pas les citer, mais... Et ils ont vraiment pris le temps de se dire, en fait, ça nous ressemble pas. On va pas aller faire du profit de ouf en faisant des produits qui vont arriver à moitié tièdes chez les gens et tout, ça nous intéresse pas. Du coup, ils ont été un des premiers restaurants à se mettre sur la plateforme Resto Paris, qui est en fait un service de livraison très très local, qui en fait a des conditions déjà pour les employés, pour l'environnement super super plus respectueuse. Tu vois, genre ils livrent en petit vélo et tout dans les camionnettes, c'est trop mignon. Et en gros, par exemple, il faut que tu réserves ton plat, enfin ton menu, la veille, pour prévoir la quantité raisonnable, pour anticiper, etc. Et vraiment, ils ont clairement pris le parti de plus galérer, de faire moins de marge, de potentiellement mettre une contrainte aux gens, en fait, parce que les consommateurs, en vrai, ils veulent maintenant de l'instantané.
Ouais, mais comme le gars, il a de la queue, en vrai, dans son resto.
Ouais, il a de la queue, mais bon, il y a quand même là des charges... Enfin, je me dis... Enfin, ça marche quand c'est... hors coronavirus, mais quand t'es en pandémie, que ton restaurant il est fermé, je sais pas si tu peux faire un peu le difficile, tu vois. Et lui, il s'est dit, enfin, eux, ils se sont dit, en fait, ça correspondra pas à Libelli si on fait un service de livraison comme tout le monde. Donc, on va vraiment faire l'effort déjà de faire aussi des plats qui sont plus facilement transportables. Tu vois, typiquement, leur pâte à pancakes, en fait, ils la proposent en bocal et après, les gens, ils la font chez eux. Plutôt que de proposer des pancakes qui arrivent chez toi, tièdes, un peu mous et tout, nul. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment une démarche et donc, du coup, je trouve ça juste. Admirable. Pardon. Donc, je les trouve trop, trop cool. Ce qui est marrant aussi, c'est que, du coup, Nico et sa femme, ils partagent un peu plus que juste le restaurant. Ils partagent aussi un peu leur vie, des petites choses du quotidien, leur garçon qui est trop mignon et tout. Et ils ont aussi récemment, il y a à peu près un an, acheté une maison en Normandie qu'ils ont retapé eux-mêmes de fond en comble. Et genre, c'est passionnant parce que vraiment, ils font des stories en pointillé, c'est-à-dire que sur Instagram, et c'est toujours la story du restaurant, hein, c'est-à-dire qu'ils partagent leur life sur la story du restaurant. Vraiment, c'est des stories en pointillé, tu te dis qu'il y en a à peu près, je sais pas, 52, tu vois. Et c'est tellement passionnant. Quoi, ils montrent comment rénover un plan de travail, comment rénover une lampe, comment rénover machin, comment planter des légumes dans le potager. Enfin, vraiment, tu sens qu'il y a une démarche de sincérité où il est en mode vraiment, bon, je vais vous parler de mon quotidien. Et tout, si ça vous intéresse pas, cassez-vous, c'est pas grave. Et je suis là, genre, c'est trop drôle, il est vraiment trop drôle, trop sincère et vraiment très cool. J'avais quoi d'autre à vous raconter aussi, c'est que Libelli, je les adore, hein, le restaurant, la démarche, etc. etc. Ils ont récemment lancé un club de running, donc là, je dis, je vous aime, hein, vraiment, j'ai carrément envoyé un MP pour dire vraiment, j'aime le running, j'aime la bouffe. Quand est-ce que je vais courir avec vous ? Et ils m'ont dit, alors pour l'instant, on n'ouvre pas au public parce que Covid, etc., c'est que pour les employés, en fait. Mais pareil, en fait, leur démarche de running, c'est dans le cadre de cagnotte solidaire, par exemple, en fait, qui récoltent des fonds pour des assos, toujours dans une démarche super cool, en fait. C'est que du gagnant-gagnant. Et ils ont un slogan qui, je trouve, récap tout à fait leur délire, c'est « It's good because we care ». En fait, c'est ça le slogan du restaurant. Et je trouve que c'est ça qui véhicule. Et je trouve que c'est admirable en 2021 d'avoir des gens aussi sincères, aussi investis Et en plus, enfin, dans de la bouffe, quoi. Donc, c'est vraiment le meilleur secteur qui soit. Donc, à la fois, j'adore Oli Belli et à la fois, j'adore les stories que Nico fait. Je vous encourage à aller voir parce que c'est drôle. C'est aussi des fois touchant parce qu'il raconte vraiment les galères en mode, bah, en fait, on a plein d'employés à payer en ce moment. On peut pas ouvrir. On galère. C'est des frais énormes d'avoir une boutique à soi. Et ben, on va tout faire pour que ça marche, quoi. Et donc, du coup, voilà, je les aime, sincèrement. Du profond de nos cœurs. Et j'ai hâte que ça rouvre.
J'ai trop hâte.
Même pour faire la queue.
Ouais. J'ai trop envie de commander chez eux. Mais du coup, je pense pas que je pourrais.
Ah oui, c'est possible thème. Parce que pareil, ouais, ils font super gaffe, ils peuvent pas livrer au bout de Paris, puisque ils sont pas très loin d'ici, ils sont près de République, rue Lucien Sempé. Et d'ailleurs, ils ont deux petits restaurants en fait. Il y en a un qui est vraiment leur QG, qui s'appelle Oli Belli 19. Et deux numéros à côté, il y a Oli Belli 5, qui est un petit peu plus premium, tu vois, c'est de la cuisine toujours de lunch, de quartier. Et ça, c'est trop cool aussi, c'est qu'ils se procure des produits chez les commerçants d'à côté. C'est-à-dire que le pain, il va chercher, tu vois, chez Mamiche. Il raconte un peu toujours, ouais, les copains ont lancé ça, on va les soutenir et tout. Et donc, du coup, voilà, il y a deux adresses, mais celle qui est un peu plus mainstream, c'est voilà, celle de pancakes, quoi. En fait, tu y vas, tu prends voilà, des rostis, des pancakes, des haricots rouges, du pain, du beurre. Juste, c'est simple, en fait. Mais c'est tellement bon, tellement sincère que... Enfin, c'est admirable, je trouve. Donc voilà.
Mais en plus, on va un peu vers ce genre de cuisine, tu vois. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, j'espère, les gens disent qu'ils veulent aller vers ce genre de cuisine. Après, ils commandent forcément Uber Eats et Deliveroo, voilà. Mais je voulais pas les nommer.
C'est toujours le. Ok, c'est pas moi.
On l'a tous fait.
Non, mais c'est toujours paradoxal. T'as envie de bien manger, Enfin, t'as envie d'un retour à l'essentiel, effectivement. En même temps, quand t'as la flemme, bah voilà, tu vas commander une junk food, et c'est pas grave, tu vois. Et ils sont pas dans le jugement, pas tout le temps en tout cas. Bah, le seul truc sur lequel il est un peu dur, et je pense que ça se comprend, c'est que il critique vachement l'ubérisation en fait de la consommation, le fait que les gens ne prennent même plus le temps en fait d'aller chercher leurs produits dans un restaurant à côté. Ils veulent une commande livrée en 10 minutes, que ce soit bon, pas cher. En fait, c'est dommage, quoi. Et donc, je crois qu'il fait partie d'un petit membre de restaurateur qui a notamment pris la parole dans un envoyé spécial contre les dark kitchens. Je ne sais pas si vous connaissez les dark kitchens.
Non,
c'est en gros,
pas du tout.
En gros, les dark kitchens, c'est un peu l'ubérisation vraiment fois 10 000. C'est des c'est des services de livraison qui se lancent, où tu peux commander, en fait, où le restaurant n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir manger en tant que toi, client. C'est que des cuisines qui sont faites pour la livraison. Et donc, du coup, ça pousse à fond.
C'est le dropshipping, mais version bouffe.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Yes. Donc, du coup, notamment Oli Belli, ils font partie de ce crew-là parce qu'ils veulent défendre de la cuisine où, en fait, on prend le temps, en fait. C'est pas forcément de la cuisine ultra premium parce qu'en fait, voilà, ils font du pain et du beurre et c'est bon, tu vois. Mais ils veulent juste que les gens prennent le temps et apprécient encore les valeurs juste de... passer du temps à table, même si ça prend un peu de temps. Effectivement... Très français.
Grave.
Donc voilà, je les kiffe. Et franchement, il est très, très drôle. Il y a plein d'histoires, des fois, qu'il a racontées. J'étais vraiment pété derrière. Il met rien en story à la une, par contre. Donc c'est un peu dommage. On peut pas les revoir.
Ah,
moi, j'aime
merde.
Bien, tu vois, genre, Elise Goldfarb, des fois, je vais voir ses stories juste quand j'ai un petit coup de mou, tu vois, et je rigole. Oli Belli, non. Donc soyez présents sur l'instant présent.
C'est pareil.
Voilà.
Trop bien, merci beaucoup Marie, ça donne envie. T'as toujours les bonnes recos de compte Instagram.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Et je pense que les gens de toute façon vont là après. J'optimise trop peut-être, mais je pense que quand ça va réouvrir, les gens ils auront envie d'aller au resto, ils auront envie de se retrouver, ils auront pas envie de commander Uber Eats chez eux. Quoi.
J'espère. Enfin, ça serait triste. T'imagines un an et demi en Uber Eats et tu.
Moi je pense que ça peut revenir vite. Hein.
Ouais. Bah ouais.
Je pense qu'on serait habitué à tout.
On serait
oui, c'est ça. Je pense que quand les terrasses vont réouvrir, honnêtement. Ça va se rassembler.
Oui, non, mais bien sûr, les terrasses, mais parce que pareil, c'est très français, tu vois, mais le fait de se faire livrer comme ça, quand t'es habitué à un tel confort, entre guillemets, je dis confort entre guillemets parce que c'est un confort, de rapidité, de.
Tu
sais,
pas
de la bonne
toi.
Bouffe. Enfin, c'est pas de. Et c'est dommage, mais en vrai, t'es aussi bloqué en ce moment, tu vois, avec le taf, t'es obligé d'aller super vite, tu veux faire 8000 activités en même temps, donc forcément, tu vois, t'es obligé d'aller plus vite, tout va plus vite.
Mais
donc,
prenez le temps, c'est important.
Ouais, take your time, c'est si beau.
Non, mais c'est vrai, moi j'ai l'impression que pendant le premier confinement, on était vraiment revenu à un truc de on prenait le temps et tout.
Là,
on est censé être en confinement couvre-feu et tout, j'ai l'impression de du coup être encore plus stressé qu'avant parce qu'il faut être chez toi à 19h. C'est un enfer, t'as le temps de rien faire parce que tu peux plus te poser en fait.
C'est
trop chiant. Voilà, j'ai un coup de gueule.
Ouais, c'est bon.
Ça se fait des tests dans Castex. Voilà.
Manu, t'entends là
ouais.
Stop.
J'aimerais bien.
Non, puis en plus, il y a quand même ce truc.
c'est vrai qu'il faut reprendre le temps de manger des bonnes choses et tout, mais il y a aussi toute l'exploitation humaine, tu vois, de ces plateformes-là.
De ouf.
On se parle vachement, ouais, justement, ouais, le mec d'Olibelli. Ouais. Moi aussi, je me suis mise à le suivre il y a pas longtemps. Et
trop bien.
Il,
hein,
me fait trop rire. Il a juste trop le seum et c'est ma, ouais, passion, les gens qui ont le seum.
Ah, c'est le meilleur.
Et il parle aussi vachement de ce truc d'exploitation où.
C'est vrai.
Là, on est dans un truc où, effectivement, on est tout le temps dans le speed, on court dans tous les sens, on n'a rien le temps ou le droit de faire. Et du coup, récupérer le peu de confort qu'on pouvait avoir avant de courir tout le temps, c'est forcément exploiter d'autres gens, quoi, qui n'ont pas le choix d'avoir ce confort-là.
Et pas le temps non plus.
C'est hyper difficile comme position, je trouve, de se dire, ouais, bah, en fait, moi, je galère tout le temps, je suis tout le temps en train de courir. Et si j'ai envie de m'acheter un peu de temps, parce qu'en fait, c'est ça que tu fais quand, oui, tu fais livrer, tu t'achètes du temps parce que toi, tu n'y arrives pas, tu vois, bah, tu t'exploites quelqu'un d'autre. Et je pense que pour le coup, ce confort-là, il y a moyen qu'après le Covid, tu vois, quand tout réouvre, ça reste un peu, parce que c'est une habitude de confort qui est difficile à perdre pour plein de gens, quoi.
On en parlait en plus avec mon copain l'autre fois. Désolée, tu voulais continuer?
Non, vas-y, vas-y.
Excuse-moi. J'étais en mode, est-ce que je continue? Ah, on en parlait avec mon copain l'autre fois que maintenant, sur Uber Eats, tu peux suivre le vélo de la personne. Je sais pas si vous avez vu.
Ah, mais depuis toujours, non?
Ça
depuis
a toujours été, ouais, comme ça. Non, mais moi, je savais pas. Et, et j'ai commandé il y a pas longtemps, j'avoue. Ouais,
mais, non, mais c'est pas. Enfin, je pense que tu vois, c'est pas grave.
Mais
en soi, il faut en avoir conscience, en fait.
Oui,
que...
oui, bien sûr, mais je sais que c'est pas bien. De toute façon, à chaque fois que. Enfin, quand on commande, ça arrive déjà pas souvent. Et quand on le fait, on se dit toujours, bon, c'est pas bien, mais bon. Et en fait, et moi, je me suis rendu compte en regardant, voilà, à quelle heure ça arrivait. Et j'ai fait, mais attends, on voit le petit vélo, genre. Et il m'a dit, bah oui, on sait dans quelle rue il est et tout. Et on le met, on sait quand il fait une pause. Et genre, je suis en mode, mais. Enfin, c'est des tarés, tu vois. Autant je comprends les bails de quand tu commandes des sushis et que ça arrive une heure et demie en retard et que le poisson, du coup, il est plus bon et que tu risques une intoxication alimentaire. Bon, voilà, mais c'est auprès du restaurant qu'il faut demander une explication ou quoi. Il y a peut-être erreur ou quoi. Mais le fait de pouvoir suivre des gens. Et à la trace, je trouve ça limite dangereux, tu vois. Enfin, il y a un truc qui est malsain.
Ouais, on s'habitue, tu vois, à effectivement checker où est-ce que ça en est, et c'est pas normal, enfin, tu vois.
Bah non. Nous, on n'accepterait pas. Enfin, moi, en tout cas, j'accepterais pas au boulot.
T'imagines, c'est comme si, ouais, nous, ouais, avant d'aller au bureau, on serait tracé.
Ouais. T'imagines, énorme, le patron. Ouais, il est 8h45, t'es encore dans le métro. Normalement, à 8h50, t'es au bureau, qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Ouais, ou calculer le moindre temps de pause.
Ouais, c'est clair.
Ouais, ça fait 5 minutes, là, t'es toujours pas en train de bosser.
Ouais, ou les temps de ceux qui peuvent pas aller aux toilettes dans certaines entreprises, ça existe aussi.
Bah, c'est comme les livreurs Amazon, là, je crois qu'ils pissaient dans des bouteilles.
Ouais, il y a un film qui a été fait dessus.
Sorry We Missed You de Ken Loach.
Voilà, okay. Bah, c'est ça.
Qui est un très très bon film dont je suis sortie en chialant ma race, parce que vraiment j'étais là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment régler ce problème.
En vrai, ça te calme. Hein, enfin, moi en tout cas, ça m'a calmé sur Amazon. Je suis en mode bon. Quand j'ai une autre occasion de commander autre part, je le fais quand même.
Mais ouais, moi aussi. Ouais. Mais c'est toujours compliqué de t'extraire de la société dans laquelle tu
Ah oui, mais pas le choix. De toute façon, tu peux pas complètement, parce que même des fois, t'as des obligations où faut que t'aies, je sais pas, pour ton cursus, pour ton travail et tout, faut que t'aies un truc en 3 jours. Et des fois, t'as pas le choix, t'as toujours le choix, mais des fois,
Tu craques.
Tu craques et c'est normal, quoi. Enfin, c'est normal. C'est parce qu'on, je sais pas, je pense que c'est dur aussi d'être dans un bail où on te demande des trucs et même si tu veux résister, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est comme, je sais pas d'exemple.
C'est un peu comme si la société, de manière générale, elle s'était habituée à la présence de ces trucs-là. Et du coup, c'était normal d'attendre de toi en tant que consommateur que tu y aies recours.
C'est ça, mais c'est comme quand t'es anticapitaliste, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué d'être anticapitaliste aujourd'hui, je trouve.
Oui, c'est sûr.
Tu peux pas être totalement, à part si tu sors du système complètement et tout et que tu pars dans des bails de termites ou je sais pas quoi, tu vois, c'est hyper compliqué aujourd'hui de se sortir du système capitaliste parce que tout est relié au système capitaliste. Donc, tu peux te dénoncer, mais s'en retirer totalement, je trouve ça compliqué, genre vraiment.
C'est galère.
Voilà.
Super. Désolée, mais c'est très drôle en tout cas. Allez suivre. Du coup, c'est le compte Olibelli. C'est pas le compte de Nico, c'est vraiment.
Et Elise Goldfarb, c'est ça?
Ouais, Elise
Goldfarb, c'est vraiment.
Ah bah alors là, tu vas te.
Alors là, c'est
en français ou pas au moins?
Ah oui, bien sûr.
C'est en anglais, moi c'est mort.
C'est la créatrice du podcast Coming Out.
Ah bah oui, mais en plus, bien sûr. Très bon podcast. Il est dans les recos podcasts de Mademoiselle sur Instagram.
La saison 2 est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, mon kiff, moi, aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de nouveau. Je fais une nouvelle activité.
Oh, trop bien.
Je fais partie d'un studio. Et ça fait 2 fois que j'y vais. Et dans ce studio, on
c'est une sorte de laboratoire de création et de recherche autour de la direction d'acteurs et des acteurs. Et moi, c'est vrai que la réalisation, c'est un truc qui m'intéresse depuis toujours. Je fais des vidéos depuis toujours, je sais pas comment le dire autrement. Vraiment, je me souviens, je pense le premier montage que j'ai fait, c'était, j'avais demandé à mon frère et son pote de faire une danse sur, je sais plus comment s'appelle cette chanson, mais sur une chanson qu'à l'époque j'écoutais énormément. Et ils s'étaient déguisés en cow-boy, et je me souviens qu'ils enlevaient un peu leurs vêtements et tout, mais on avait genre 14 piges, tu vois.
La sextape de...
Non, mais c'est pas une sextape, c'est genre, ils se mettent à un moment, ils se mettent torse nu, enfin tu vois, ils font vraiment la fête et tout. Et moi j'avais monté ça. Et je m'étais dit, à l'époque c'était sur Windows Movie Maker, et je m'étais dit, putain, c'est du génie, c'est trop bien tout ce que tu peux faire et
c'est
tout.
Monte, c'est vraiment.
Et vraiment, j'ai été complètement autodidacte, donc j'ai travaillé avec Windows Movie Maker, puis après avec iMovie quand j'ai eu un Mac, puis après avec Final Cut Pro, grâce à mon école de commerce, parce que j'étais dans l'association d'audiovisuel. Donc en fait, ça a vraiment toujours fait partie de moi. Même quand je vais en vacances, j'ai toujours une caméra avec moi. Beaucoup moins ces deux dernières années, là, depuis que je suis revenue de mon voyage en Inde, où vraiment, je suis revenue à Paris et je suis là...
Ça t'inspire pas? La vie ne t'inspire
pas? Bah, moins, tu vois.
Pourtant, il y a plein de choses poétiques.
Mais je sais plus, je sais pas, en fait. Puis aussi, t'es dans le quotidien, ouais. Ta caméra, elle est lourde. Enfin, voilà, j'ai un réflexe qui est censé être le réflexe le plus léger. C'est le 100D, tu vois, qui fait pas une image de ouf, mais au moins, il est léger. Comme ça, pour l'emmener en voyage, c'est cool, mais... Enfin bref, je fais tout le temps des after-movies, j'appelle ça des after-movies de mes vacances. Je fais toujours, j'embarque mes potes toujours dans des putains de parodies de télé-réalité. Donc
tellement
voilà,
vrai, j'en souviens.
Tellement vrai, j'ai fait aussi Les Anges de la télé-prépalité. J'ai aussi fait... Mais en fait, j'en fais plein tout le temps et juste pour le fun, tu vois, ça me fait plaisir. J'ai fait des courts-métrages aussi. À chaque fois que je travaillais avec des gens, c'était des amis. C'était des gens que je connaissais, que je rémunérais pas forcément parce que j'ai pas les moyens, tu vois. Et donc, du coup, là, de me retrouver dans ce studio où, en fait, le mec qui a créé ça, il m'a contacté sur Instagram après avoir vu le Nikon Film Festival d'Harmonie Mutuelle. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de au moins venir un cours, enfin, un atelier, en fait, il s'appelle ça des ateliers, parce que c'est pas vraiment un cours, parce que lui, il dirige l'atelier, mais c'est pas le prof non plus. Il est réalisateur, il a fait plein de courts-métrages, là, il écrit un long-métrage, donc c'est vraiment des professionnels, et les acteurs que tu rencontres là-bas, c'est vraiment des acteurs professionnels aussi, il y en a beaucoup, c'est entre jeunes aussi. Enfin, c'est que des acteurs plutôt jeunes, qui sont en début de carrière, qui viennent se confronter aussi à des visions de réel, c'est un moyen de faire du réseau aussi, également. Aussi également, bah oui, toujours plus.
Du coup, il y a des acteurs, des réalisateurs.
Voilà.
Et quoi d'autre que des...
C'est tout. Okay, en fait, c'est un studio où tu as un réal pour deux acteurs, okay. En règle générale. Parfois, c'est trois acteurs, parfois, c'est un acteur. Enfin, ça dépend. Et donc, ça t'est attribué la semaine d'avant. Tu vois, ils t'envoient le programme. Ils font, bon, bah, Alix, tu seras avec machine et trucs. Et soit tu fais une improvisation structurée, c'est-à-dire que tu arrives avec une idée de lieu, de personnage, de shift dans la scène. Donc, il va y avoir un changement. La relation entre les personnages va plus être la même au début et à la fin. Bien. Donc ça, c'est une improvisation structurée. T'en parles avec tes comédiens et pendant 30 à 40 minutes au début de l'atelier, tout le monde parle. Enfin voilà, on parle de ce qu'on a envie de faire. Moi, en tant que réalisatrice, je dois donner ma vision sur ce que je veux à la fin être accompli. Et ensuite, on passe tous devant la caméra. Donc il y a une caméra, il y a un petit peu des lights, il y a des décors différents. Enfin bon, ça reste. Il y a une cuisine, il y a un salon, il y a dehors. Enfin voilà, tu vois. Mais j'ai quand même réussi la première fois à refaire un petit peu un plan. On croyait qu'ils étaient dans un train, tu vois.
Trop bien.
Et en fait, c'est assez fou déjà de rencontrer des gens et aussi de partager quelque chose avec ces gens-là que d'hyper intime tout de suite. Parce que tu vas arriver avec une vision. Enfin, moi, la première chose, la première fois que j'y suis allée, c'était une improvisation structurée. J'y suis allée avec des idées que j'écris, des trucs qui me tiennent à cœur, tu vois. Et tout de suite, tu dois leur expliquer ta vision. Ah oui. Et c'est un truc super dur à faire, d'expliquer ce que tu as dans ta tête. Et c'est aussi ce à quoi sert ce studio, tu vois. C'est à chercher comment mieux communiquer entre réalisateurs et acteurs. Et en fait, les acteurs, je les entendais parler, c'était hier soir.
je les entendais discuter entre eux et ils disaient bah en fait nous on en a marre d'aller sur des tournages et d'être là que pour la prise, tu vois, d'être tu dois faire trois prises, t'es en champ contre champ, donc tu sais les champs contre champs, t'es une fois t'as la caméra sur toi. Tu fais trois fois et ensuite t'as le contre-champ où c'est la caméra sur l'autre, il fait trois fois et toi tu donnes juste la réplique.
Ah ouais.
Et donc ils étaient là, c'est hyper industriel comme façon de faire, on n'a pas le temps de se rencontrer vraiment en tant qu'acteur. Bon, c'est des gens hyper sensibles aussi, tu vois, qu'on fait des écoles de théâtre, donc qui ont des sensibilités vraiment poussées à l'extrême, qui ont une empathie de ouf. Qui aiment connaître les personnages, qui aiment aussi... moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu peux arriver avec une idée en tant que réalisateur. Enfin, moi, réalisatrice, du coup, là, hier, je faisais pas une improvisation structurée, on m'avait donné un texte. Donc, je suis arrivée avec mes visions, tu vois.
Putain, c'est génial.
Je suis arrivée avec ma vision, c'était un texte de Pomera, en plus, super dur. Et je suis arrivée en disant, bah voilà, moi, je le vois comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, en discutant ensemble, on prend un peu une autre direction, on partage et tout. Après, c'est aussi le fait que c'est pas un texte que j'ai écrit. Si c'était un texte que j'avais écrit,
oui,
forcément,
l'idée.
J'aurais été plus directive. Mm. Mais c'est ce que disait l'animateur de l'atelier. Il disait, en fait, je pense que c'est une erreur de... Parce que t'as écrit un truc, d'être super directif et de vouloir aller exactement où tu veux aller. Parce que la vision, elle peut être partagée et du coup, plus réaliste aussi si tu mets plusieurs cerveaux. Mmh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs cerveaux, bah, ça marche mieux en règle générale. Et de permettre, en fait, ces moments-là où t'as pas du tout le temps en tournage de les avoir, c'est hyper intéressant d'explorer ensemble, de proposer. Et c'est vraiment, moi qui suis super scolaire, parfois ça me fait peur, j'ai l'impression vraiment de me jeter dans le vide parce qu'on n'attend rien de moi. Mmh. On attend juste que je teste des trucs. T'en as parfois qui font dans les improvisations structurées vont faire trois impros différentes parce que tu fais en gros quand tu passes au tournage tu fais une fois ta scène, ensuite tu donnes des directions d'acteurs devant tout le monde, puis ils refont, ou alors tu vas donner des directions d'acteurs dans la pièce d'à côté tout bas à l'un et puis pas à l'autre, enfin voilà, t'expérimentes des trucs aussi, tu vois, et ensuite tu fais une deuxième fois la scène voire une troisième fois. Et après, les gens te font des retours sur toi, tes directions d'acteur. Comment t'as été à ce moment-là, et peut-être que t'aurais pu employer plus ces mots-là. Peut-être, tu vois, c'est hyper
difficile.
C'est hyper difficile.
C'est super dur. Hein.
Ouais, franchement, tu fais ça pas seulement devant les acteurs, quoi. Tu fais ça aussi devant d'autres gens.
Tu fais ça, t'as un public, tu vois, et des gens qui te donnent des... Hein. Et en même temps, derrière, tu vois, moi, hier, on avait donc un texte assez compliqué de Pomera où... Il y avait beaucoup de sous-textes et c'était un vrai texte de théâtre, donc c'est pas pareil à la comédie.
Quelle pièce de Pomera, tu sais ?
C'était la réunification des deux Corées.
Meilleur texte de Pomera ever.
Et donc ça s'appelle L'amour ne suffit pas, et donc c'est toute la scène où elle lui dit L'amour suffit pas, et on se quitte parce que l'amour suffit pas. Et lui, il a quoi ?
Mais pourquoi ?
Ça veut rien dire.
C'est marrant parce que j'ai un copain qui tentait le concours de Saint-Étienne, c'est une école nationale, et qui passait cette scène, et c'est moi qui dirigeais sur cette scène.
Elle est dure.
Elle est dure. Et en fait, toi, tu l'as dirigée comment, la scène ?
Moi, ça m'intéresse, j'y connais rien. Genre, qu'est-ce que tu dis, par exemple, typiquement, un exemple, pour jouer telle scène, qu'est-ce que tu vas employer comme mot ?
En fait, moi, je suis arrivée donc, avec ma vision. Donc là, on est dans le contexte cinéma. Donc, il fallait trouver une parade aussi au lit, tu vois, parce que ça se joue dans un lit, cette scène. Mm-hmm. Donc, nous, on n'a pas forcément de lit. Donc, l'idée, c'était de filmer dans la cuisine. Et qu'elle le réveillait et qu'il arrivait. Et en fait, elle se barre. L'histoire de la scène, c'est qu'elle se barre en plein milieu de la nuit. Et elle lui dit, je te quitte.
It's over.
Okay. Et lui, il est là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est même pas disputé. Pourquoi tu t'en vas ? Donc, c'est un peu absurde. Il y a beaucoup de oui-non. Enfin, il y a beaucoup de sous-textes, en fait, et de monologues intérieurs. Et donc, moi, j'arrive et je leur dis, voilà comment je pense les personnages. Je pense que cette femme-là, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Je pense que ce mec-là, il est comme ci, comme ça, comme ça. J'échange avec eux aussi, parce que moi, j'aime bien faire ensemble qu'ils me disent un peu leur avis. Puis même, moi, je suis pas encore hyper affirmée. Je connais pas les gens, tu vois. Donc, j'essaie de partager un peu. Et donc, ils me disent. Ensuite, je leur ai proposé trois versions, parce que moi, je voulais que cette rupture, ce soit une sorte de fausse rupture. Et que, en trois scènes, ce soit la construction plutôt de quelque chose et de la maturité d'un personnage et en fait de faire des trois ruptures une construction d'une relation entre les personnages.
Mmh. Okay.
Donc vraiment de prendre le contre-pied. Ma première situation, c'était des gens qui se sont dit « je t'aime trop vite » et que le mec a dit « je t'aime trop vite » et que finalement, la meuf, elle est très mal à l'aise parce qu'elle lui a répondu que oui et puis elle est là « comment je vais m'en sortir de ce... » Voilà, « comment je vais me sortir de ce truc ?» Après, t'avais l'étape d'après où c'était, ils étaient fous amoureux et, parce qu'elle ne l'avait jamais quitté finalement et ils étaient fous amoureux et, sauf qu'elle devait partir au Brésil dans 2 mois pour un taf. Et ils avaient décidé de rester ensemble, de tenter la longue distance. Et puis elle a cheminé dans son coin. Et puis elle s'est dit non, bah non.
Ah, oui,
moi je veux partir. Enfin, je veux pas. Pas libre, mais je veux pas que notre amour se délite. Mmh. Et donc je préfère l'avoir fort ici, tu vois. Donc l'amour ne suffit pas vraiment. C'est au point de. Enfin, l'amour, ça suffit pas à garder quelqu'un proche de toi, tu vois.
Mmh. C'est bon. Ouais,
c'est vrai. Et la troisième étape, c'est finalement celle qu'on a faite. Et je pense qu'on l'a fait trop... Enfin, moi, je me suis trouvée mauvaise, mais on l'a fait trop tôt. Et ils avaient 25 ans de mariage, et donc c'était vraiment... Elle était arrivée au bout d'une longue réflexion. Donc, tu vois, t'as les années qui sont passées, t'as eu envie des autres, etc. Et elle voulait le quitter parce que l'amour, c'était plus au centre de ses priorités. Mmh. La vie à deux, elle avait envie un peu d'être seule. La vie à deux, c'était plus au centre de ses priorités. Et aussi parce que ce gars... dit un moment dans la scène, il dit mais qu'est-ce que je mais moi si tu me quittes moi qu'est-ce que je vais faire sans toi, au lieu de lui dire je t'aime comme n'importe quelle personne censée. Je t'aime reste, tu vois, elle aurait voulu qu'elle lui dise
et moi qu'est-ce que
ouais voilà moi qu'est-ce que je et donc c'est terrible cette scène et donc c'était vraiment le point de bascule où elle part et finalement tu vois c'est devenu cette scène là que cette scène là au début moi je voulais faire les trois
ah oui.
C'est devenu que cette scène là et je leur ai demandé d'échanger les dynamiques, c'est-à-dire que elle dit qu'elle part mais il faut qu'elle ait envie de rester, enfin faut qu'elle les envies que l'autre la retienne.
Ouais,
Et lui, il dit mais pourquoi tu me quittes ? Mais il est super détaché et tout ce qu'il veut c'est se retourner se coucher, tu vois.
Ok.
Voilà, c'était mes directions.
C'est énorme. Mais c'est top, ok, c'est trop bien.
En plus c'est dur pour toi parce que tu passes de la, enfin tes acteurs passent de la scène de la caméra de 1, 2, 3, pas voilà, de la scène à la caméra.
Ouais, si c'est super dur.
Et toi tu passes de la caméra à la scène.
Ouais.
Et on a beau dire. C'est très bien sur du théâtre et du cinéma, mais ça n'a rien à voir. Et du coup, je trouve ça assez courageux, Alex.
Bah ouais, c'est pas moi qui ai choisi le texte.
Non, mais de te lancer dans de la direction d'acteur, parce que c'est quand même pas pareil d'avoir une équipe de tournage, même quand t'es en équipe réduite, t'as 2 ou 3 personnes, et de dire ok, mets-toi là, ok, tel plan, machin, ok, machin, bidule, tourne, machin. C'est quand même pas pareil de faire ça et d'avoir une scène.
Ouais.
Et au théâtre, je trouve qu'on prend en général plus de temps. Ouais. Une scène, tu peux la répéter 15 fois et à la fin de la journée dire bon, on la refait demain parce que ça va pas. Mmh. Alors qu'au cinéma, bah, tu peux faire 1000 prises, mais.
Bah, pas si t'as pas le temps, t'as pas le budget,
voilà,
tu vois.
Si t'as ni le temps ni le budget, ça file, tu vois. Et je trouve ça assez fort ce qui peut se passer dans ces moments-là, la rencontre un peu cinéma-théâtre.
Ouais.
Parce qu'en plus, derrière, c'est pour passer derrière la caméra, finalement.
Ah oui, bah en moi, plus, tu vois, quoi. C'est vraiment pour. Ouais, pour réfléchir aussi à comment j'appréhende ce truc-là, de. Diriger des gens, tu vois, aussi, même je pense que ça devrait être un truc que t'enseignes peut-être dans le management, parce que
bah bien sûr, mais carrément,
c'est
mais bien sûr.
Véhiculer une idée,
on doit faire ça,
bah ouais, des stages comme ça, tu vois,
ouais.
Parce que véhiculer une idée, t'as un truc derrière la tête et c'est tu dois clair. Demander à tes équipes de le faire, c'est une traduction de zinzin, personne ne parle la même langue, vraiment, on croyait qu'on parlait français, c'est faux,
ouais.
Donc ouais, c'est hyper intéressant et c'est vrai que ce que tu disais, c'est ce qu'on se disait hier soir, c'est que nous, en tant que réalisateur, tu as toujours cherché le plan. Donc t'es à la recherche de l'esthétique, t'es à la recherche de le plan qui va faire Sundance, le plan qui va faire, tu vois. Et donc tu cherches ça, tu cherches la lumière, tu cherches machin. Et puis ta dernière préoccupation, c'est le comédien parce qu'il est censé faire son métier et délivrer son truc comme ça.
C'est ça.
C'est
alors que là, c'est une forme de communication plus intensive. Donc voilà, je fais partie d'un truc de recherche.
Mais j'adore.
C'est génial. Et surtout que les comédiens, pour eux, je pense que c'est aussi un truc de ouf parce que c'est des comédiens qui sortent de quelle école, tu sais, à peu près ?
Bah, tous différents. Il y en a beaucoup qui sortent de Florent, il y en a certains qui viennent de Courtrage-Mé, il y en a certains qui sortent. J'en ai un que j'adore qui a fait du théâtre en Russie, en Biélorussie.
Il a fait l'école du printemps ?
Je sais pas, mais voilà. Et puis, c'est beaucoup de gens qui galèrent un petit peu au début de leur carrière aussi, donc ils sont là
pour
essayer plein de trucs aussi. Et Enfin, tu vois, moi, il y en avait une qui me racontait, elle fait, ouais, je fais pas mal de trucs pour TF1, je fais un peu du doublage, mais j'aimerais bien faire autre chose aussi, après, derrière. Enfin, il y en a qui font beaucoup de pubs, tu vois, donc c'est vraiment en plein lancement, et ça fait vraiment trop plaisir de rencontrer des gens dont c'est vraiment la passion, le métier, ouais. et qui... Enfin, j'adore mes potes, mais,
Mais
prenaient au sérieux. Enfin, ils me prenaient au sérieux. Si, ils me prenaient au sérieux, parce que mes potes m'adorent, mais...
Je respecte.
Mais c'est pas quelque chose qu'ils comprennent. Ouais. Enfin, c'est pas un truc sur lequel ils ont étudié.
Et... Oui, puis t'es passionnée, je pense. Ouais. Quand t'en es à ce niveau-là, dans ta carrière, enfin, dans tes études, ta carrière, etc., c'est que tu te destines de toute façon à devenir acteur. Et ce que je trouve trop bien pour eux, c'est que dans le cinéma français, on reproche souvent aux acteurs français d'être trop théâtraux. Et ce genre de projet recherche, c'est trop bien parce que ça fait une sorte de lien entre les deux. Et ça me fait juste penser à un film qui s'appelle « Trois souvenirs de ma jeunesse ».
Ouais, de Arnaud Desplechin.
Oui, c'est ça. J'avais peur de me tromper sur le réel, mais c'est bon, c'est ça. Et en fait, ce que je trouve ouf dans ce film, et ça me fait penser à ce que tu disais, c'est que les acteurs, ils ont le droit d'être théâtraux. Et il y a un phrasé, un parlé qui est... C'est une pote qui m'avait expliqué ça, qui est très cinéphile. Il y a un phrasé, un parlé qui est très théâtral, mais la manière dont ils se préoccupent d'eux et la manière dont ils les a dirigés fait que à la caméra on voit en fait que l'acteur est prioritaire, que son phrasé est prioritaire, tu vois, que sa présence passe avant le plan, et c'est l'acteur qui rend le plan beau et non pas l'inverse. Et ça me fait penser à ça, du coup, super atelier.
Voilà, super atelier. Et vraiment la première fois quand j'ai fait une impro structurée avec deux comédiens où on a imaginé une scène de gens qui se rencontraient dans un train et qui se reconnaissaient mais ils savaient pas d'où. Et en fait, ça a créé des trucs. Tu sais, t'as une vraie rencontre, il se passe vraiment quelque chose, tu vois, tu te dis waouh, c'est fort quoi.
Mais c'est un truc qui se fait pas sinon. C'est quand même dingue que.
Bah non, et en fait, tu vois, les bouquins sur la direction d'acteur, moi j'en ai un, et c'est que des interviews de réalisateurs français. Déjà, zéro meuf, alors vraiment.
Ouais. Et c'est étonnant.
Moi, on m'a dit que j'étais une des seules meufs aussi. Et j'en ai pas encore croisé moi de réelle meuf, ouais. Mais que des mecs, en fait c'est pas du tout théorisé, et en ça les Américains sont beaucoup plus en avance sur nous que beaucoup, mais surtout tu vois, parce que les Américains bien avant nous ils ont appris le creative writing, donc appris à écrire. Comme si, en fait, nous, on a une vision hyper romantique de l'art, en mode
t'es un génie,
l'art,
ou tu l'as
inné.
Pas.
Voilà, c'est ça. C'est l'artiste comme sur son rocher là, comme ça, qui est frappé par l'inspiration. Alors que c'est faux, tu vois, ça s'apprend.
Ça s'apprend
à écrire, ça s'apprend. Il y a plein de choses qui s'apprennent. Donc
American Dream.
Voilà. Donc prenons exemple sur les Américains et enseignons les trucs qui sont pas tangibles.
Et faisons en sorte que les réalisateurs, réalisatrices soient aussi des directeurs. directrice d'acteur. Parce qu'on en parlait avec Aline et toi, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 semaines, que souvent, t'avais... Déjà, c'est rare que t'aies un directeur, directrice, d'acteur ou d'actrice sur les tournages. Et quand on a un, c'est pas la même personne que le réalisateur ou la réalisatrice. Et du coup, ce serait trop bien si on avait des gens qui condensaient les deux. Et on aurait des films super et des tournages super pour les acteurs aussi et les actrices, parce que c'est important.
Et ben, watch out for my films, hein.
On a trop hâte, Alix.
On attend la suite, hein.
Voilà. Et bien, c'est la fin de cet épisode.
Pas mal. C'était trop
déjà.
Bien.
Merci à vous trois. Bah déjà, on a quand même 1h30 hein, dans la boîte.
Allez. On dit maintenant 1h30. Elle aime pas de moyenne. Temps. C'est bon.
Exactement. Merci à vous trois d'avoir participé. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires sur
Apple Podcast
avec
5 étoiles.
Merci pour vos jingles, vos dédicaces et vos messages boubou, vos messages rérés,
vos messages bourrés
sur laisse-moi kiffer @mademoiselle.com.
C'est une vraie adresse.
C'est vraiment une récitation.
Au bout de ta vie, genre, allez, 5 étoiles.
On a des bons points si jamais on le fait bien.
Ça fait vraiment pavlovien comme truc. Quoi. Dans la rue, quand vous entendez boubou, vous criez, non?
Rérez! Que les grâces reviennent juste pour ça, genre.
La moindre pub pour Apple Podcast.
5 étoiles! 5 étoiles!
T'imagines dans l'Apple Store? Ah, génial.
Putain, mais ouais.
LM Crado lâché dans l'Apple Store.
Appelle podcast 5 étoiles.
Et puis bah écoutez, en attendant la semaine prochaine,
touchez-vous bien, Kiki.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.